Bon, là, ça enregistre. À Go, on fait un Facebook feed duel. Premièrement, tout le monde se met à Most Recent.
C'est déjà fait.
OK, 1, 2, 3, go. Éric?
Moi, j'ai Jean-François Provençal qui dit « Dying Light, c'est un peu l'enfant de Far Cry et du côté exploration plus lockpick de Fallout. Bref, wow. » En passant, Jean-François, bref, bienvenue en 7 mois passés.
Cool. Alex, ton Facebook.
Jonathan Moraes dit « That time of the month again. »
OK, good. Vague Booking, c'est toujours bon, ça. Milton? J'ai peur de te le demander. J'ai
une photo.
C'est que Milton, tu as donné le temps de chercher. En
non, fait. Mais c'est mon premier post, là, que okay. C'est le ouais. Plus récent.
C'est vraiment ton premier, ça?
Ouais, gars, je suis en haut.
Ah, shit, il me fait peur.
Mais je veux pas en parler. Oh, là, ça a changé, fait que je pourrais peut-être parler. Ben, c'est pas bien mieux. Mais l'autre avant, c'était quelqu'un qui partageait une page de Pegida Québec, fait que c'est un asti de raciste islamophobe, fait que j'ai pas besoin d'en parler. Puis là, je viens de refresher, puis c'est une page qui s'appelle Stupid Doudou Dumb, puis il partage une photo d'une fille sexy qui dit 10 Hollywood stars who started their career as adult entertainers.
All right.
Fait que c'est intéressant à bout.
Guillaume?
Moi, j'ai fait commentaire, j'ai fait un refresh sur mon Facebook feed.
Le premier,
toi avec, t'avais un post raciste islamophobe.
Non, mais moi, non. J'ai fait un refresh. Mais moi, c'est une pub, en fait, de la Société des arts technologiques qui montre des photos de l'événement du campus SAT où on voit un Oculus Rift puis un DJ avec un VJ.
Et boy, moi, c'est un article de Wired qui dit que la Porsche's The Mission E concept combines stunning lines with superlative range and performance in a package that should make Elon Musk very nervous. Fait que dans le fond, ça a l'air que la Porsche va essayer de se pogner contre Elon Musk pis Tesla.
C'est ce qui serait drôle.
Ça serait quoi qui serait drôle?
Qui a pris les patents de Tesla pour faire la Porsche, qui sont open source.
Faut que je fasse une parenthèse, Elon Musk, là, c'est trop drôle, parce que Elon Musk était invité sur... Sur Colbert.
Colbert, quand j'hésite.
puis quand il était là avec Colbert, qu'est-ce qui était drôle, c'est que c'était la deuxième soir. Puis le premier invité, c'était Scarlett Johansson. Puis on a genre appris dans le show que Scarlett Johansson, elle avait vraiment un gros kick sur Elon Musk au début. Puis elle a été à son SpaceX place. Puis elle a rencontré. Puis c'est pas mal sous-entendu qu'elle le trouvait vraiment weird puis un peu trop intense. Mais c'est ça. Puis après, quand Elon Musk est arrivé, ils ont aucunement touché le sujet après parce que Scarlett Johansson en avait déjà trop dit.
En fait,
puis c'était un peu en jet lag. C'était assez spécial.
Ce gars-là a quand même une longueur d'avance sur nous autres parce que Scarlett Johansson, elle a une opinion sur lui, tu sais, contrairement à moi que c'est même pas que j'existe. Bienvenue à l'épisode 67 du Geek Collectif. Mon nom est André Paquette, accompagné d'Alexandre Gréco.
Bonsoir André, bonsoir les amis.
Bonsoir les amis et bonsoir Alexandre. T'es en forme, Alex?
Ouais.
Ouais.
Beaucoup d'énergie ce soir.
Excellent, c'est ce qu'il faut. Éric!
Bonjour André, ça va bien aujourd'hui?
Ça va très bien. Et toi, Éric?
Très bien, très bien.
Très bien, merci. Milton, est-ce que ça va bien toi, Milton?
Très bien, ça va toujours bien.
Good, je vous ai bien drillé à matin, c'est bon, ça c'est oui. Correct. Guillaume! Toi, ça va bien?
Ça va excessivement bien.
J'aimerais que tu prennes ton excessivement bien puis tu le ramènes à 10, s'il te plaît.
Ça va bien.
Parfait, merci. Donc, épisode 67 du collectif. Guys, on l'embinera pas, on a un gros sujet ce soir, on va en avoir beaucoup à dire. Donc, actualité, guys, qui se mouille?
Je vais y aller, moi.
Éric?
Ben, pour faire différent, tu sais, parce que des fois, on sacrifie Milter, fait que ouais. Je me suis dit, je sais plus le faire, sauter dans l'avant du train. Cette semaine, ben, fait 2-3 semaines dernièrement que je joue beaucoup à un petit jeu qui s'appelle Pac-Man 256. C'est peut-être un des meilleurs jeux que j'ai jamais joué dans l'histoire des jeux de mobile. De un, ça mélange des amours que j'ai pour Pac-Man de mon enfance. Puis ça, c'est peut-être la meilleure manière de l'avoir modernisé que j'ai jamais pu avoir pensé. C'est un jeu qui a été sorti par Hipsterwell. Fait que si on connaît Hipsterwell un peu, on a aussi peut-être dabblé dans le jeu Crossy Roads. Je sais pas si y a du monde qui connaît Crossy Roads. C'est comme la poule que t'es capable de faire traverser des rues
ouais.
un peu. Là.
Ouais.
C'est un gros hit monumental dernièrement.
J'ai joué beaucoup. Mon
fils, il trippe là-dessus.
Ouais, et voilà. Puis c'est le fun parce que c'est des genres de jeux qui prennent un peu l'approche free-to-play plus dans le monde de League of Legends où ce que tu payes pour des skins... Pis des affaires comme ça.
Je me sens vieux, man, parce que pour la première fois de ma vie, j'ai aucune fucking idée de quoi tu parles.
Ben, tu vois, peut-être tu te sens vieux, mais moi, c'est plus j'ai un gros trip sur les jeux mobiles. Mais je voulais vraiment parler de ce jeu-là pis te décrire un peu, parce que c'est un jeu que je pense que les gens, s'ils connaissent pas, s'ils ont même trippé Pac-Man un peu, ou même s'ils connaissent pas Pac-Man, c'est peut-être une des meilleures affaires jamais vues. De un, le titre, il est écœurant, c'est Pac-Man 256. Pourquoi vous pensez qu'il s'appelle Pac-Man 256?
Moi, je dirais parce qu'il y a 256 couleurs.
Pac-Man a loin d'avoir 256
couleurs. Tu peux jouer à 256 personnes en même temps?
Ça c'est peut-être le sequel. Ça serait bien. Quelqu'un, non?
182 était déjà pris.
Hein?
C'est le disk space du jeu.
Sais-tu quoi? C'est pas loin de ça. Ça a le rapport à ça parce que ça a le rapport au jeu dans ça. Toi, t'as pas d'idée?
Moi, j'ai dit de la merde.
Ben dans le fond, c'est parce que dans le Pac-Man original, il y avait un glitch quand tu te rentrais au 256e tableau. Puis c'est un genre de glitch où ce que t'avais plus de mémoire, naturellement.
Ah, ça, okay, oui.
ça ratouche. C'est un kill screen un peu, je pense. Mais dans le fond, t'avais le dernier tableau où t'avais plein de codes qui embarquaient dans l'écran. C'est ça qui est un peu qui est cool de ce jeu-là. Fait que d'un, c'est la mécanique de Pac-Man où ce que t'es juste en train de monter. Tu pognes des pellets, tu pognes des gros, il y a les fantômes partout. Tous les fantômes sont là. Mais ils ont toutes des fonctions différentes. Il y en a qui sont plus vite que d'autres, il y en a une qui dorment jusqu'à temps que tu passes à côté d'eux autres. Mais le tableau, il va à l'infini par en haut. C'est ça qui est. Tu peux jouer pour d'après ce qu'on a de là, d'après mon expérience à date, tu peux jouer pour des heures puis tu vas pas avoir la fin du tableau. Mais t'as le 256e glitch, le glitch original qui est toujours en train de te pousser par en arrière, par exemple. Fait que c'est comme si le jeu est en train de break off en genre weird glitch de nice. Balls d'arcade des années 80 en arrière de toi. T'as plein de power-up. Les power-up sont vraiment cool. Ils varient d'un genre de laser que Pac-Man y jette par en avant pour tuer les ghosts. T'as le pellet, le power pellet naturellement que tu prends qui te fait tous les fantômes avoir peur. Puis que tu peux manger. T'as un grow. T'as une affaire où ce que tu peux grandir puis tu passes par-dessus le tout. Puis ce jeu-là, je pense que j'ai passé tellement de temps avec à date. Puis je joue juste. Ils ont le genre de mécanique de free, où c'est free-to-play, mais t'as des credits. Fait que tu peux soit jouer free-to-play ou gratuit, mais t'as pas de power-up. Ça, tu peux jouer à l'infini. Mais c'est très, très, très dur aussi. Mais t'as l'option où tu joues avec des credits. T'as 6 credits qui se reload, un peu comme les jeux bien populaires qu'on connaît de ces temps-ci. Puis ça, t'as les power-up. Puis le plus de pellets que tu manges, mais le plus que ça te permet, en plus de ça, de leveler up les power-up. Fait que quand t'as un power-up, on va dire, ton laser, tu veux qu'il lasse plus longtemps ou qu'il soit plus fort, mais tu ramasses des credits en jouant le jeu, tu peux leveler up ces power-là. Puis j'ai vraiment, vraiment eu du fun avec ça. Puis c'est comme sincèrement, là, c'est peut-être un des jeux les plus cool que j'ai vu longtemps.
Android, wow! iOS et Android?
Oui, ou dans la future...
Android.
Ça va venir, l'Android.
Je viens d'inventer un terme en passant. À partir de maintenant, quand le jeu est disponible, c'est deux plateformes. C'est disponible sur Android.
C'est comme Bradgelina. Excuse.
Puis ouais, disponible, c'est deux. Je joue sur mon iPad puis sur mon téléphone. Un pro tip pour la version du téléphone, joue-le sur le côté avec ton téléphone mis genre en horizontal. Ça te permet de voir plus où ce que ça s'en vient, planifier par où ce que tu vas aller. Parce que ça devient très difficile après un bout de temps, mais tu comprends où aller parce que tu vois quels ghosts qui sont en avance, puis tu sais que si tu prends un trajet, tu vas pouvoir les éviter, ces fantômes-là. Mais si tu penses pas à ça, si tu penses pas deux moves en avance, comme ça, tu vas être dans la merde. Mais ouais, Pac-Man 256 de Hipsterwell, c'est un peu pour célébrer le 35e de Pac-Man aussi. Moi, j'étais un gars de 36 ans, fait que moi, Pac-Man, c'est une grosse... Moi, Pac-Man, il était plus populaire que Mario quand j'étais kid, puis j'ai vu Mario enlevé du trône, mais moi ça me rapporte un peu à ce trip-là. La musique est cool, tout est vraiment bon. J'ai plein de screenshots de mes highest scores que je prends. Je suis rendu à 10 000 à peu près. S'il y a des gens qui pensent qu'ils veulent s'ajouter à ça, ben si vous êtes amis sur moi, Facebook, etc., ajoutez vos scores, c'est le fun.
J'ai gratuit, Bruno, hein,
c'est ça? C'est complètement gratuit. Quand j'en ai parlé un peu sur Facebook, Bruno Georgette, le Rétro Nouveau, il trippe bien raide de ça aussi, là, c'est un de ses coups de cœur. Mais c'est vraiment là, un must, là, tout le monde doit le jouer.
Moi, je vais aller dans
le
dos.
Je viens de me l'installer, moi, là.
Et ah, voilà.
Merci beaucoup, guys.
Imagine, hein, quand ils vont faire un Pac-Man Maker, là. Ouf, Mario va reprendre le bord, puis c'est Pac-Man qui va venir sur le top.
Si on est tellement nulle
le
part,
monde attend ça, Pac-Man Maker. Non, mais le monde sont créatifs.
Tu me tentes de parler de Mario Maker que j'ai joué aussi, non. Là, fait que fuck pas l'affaire.
Milton, je pense que ça va être à ton tour, justement.
OK. moi, j'ai joué et ça m'a ravivé, si on peut dire, une petite flamme pour un jeu que je jouais beaucoup dans le temps que c'est sorti. C'est sorti en 2008. Fait que ça fait un bout, pareil, quand tu y penses, ça fait quasiment 8 ans. Puis, puisqu'on est en 2016. Et ça s'appelle Castle Crashers, fait par The Behemoth, une compagnie qui a fait Alien Hominid et Battle Block Theater. Puis on reconnaît tous ces jeux-là par leur style d'art assez particulier et similaire. Un humour assez fucké aussi, là, ce qui rajoute beaucoup au jeu. C'est un RPG hack and slash beat'em up qui est très le fun. Là. Dans le fond, tu commences, c'est un choix classique de Cat Warrior, de couleurs classiques, les verts, bleus, rouges, tout un pouvoir élémental relié un peu à la couleur qu'ils ont. Fait que on s'entend que le bleu c'est de l'eau pis des affaires de même là. Puis, en gros, c'est une petite histoire drôle classique de sauve la princesse, puis t'avances dans une map un peu à la Mario Bros 3, si on peut dire. Tu choisis ton tableau en avançant, tu choisis ton path des fois, t'as des choix à faire. Tu te fais du fun. Tu beat 'em up, tu grind, tu ramasses des armes, tu ramasses des animaux qui deviennent tes gens de compagnon. Mais c'est drôle parce que c'est tous des petits animaux ballons, genre. Fait que t'as comme une petite poule qui flotte à côté de toi ou un petit Doberman Nowhere qui est la même grosseur que la poule. Fait que c'est juste du mot très cru et nowhere. Comme par exemple, à un moment donné, plus t'avances dans la forêt, tu rencontres un hibou, puis là, ça freeze sur l'hibou, puis le hibou... T'entends comme un... Tu sais, la Jurassic Park, là, quand il y a le... C'est quoi le gros dinosaure? Le T-Rex, tu sais, la toune classique de Jurassic Park, là, qui part, là, qui fout la chienne. Non, mais quand le T-Rex arrive, puis l'eau, elle shake, là, tu sais, le stage shake, là, tu sais, fait que là, tu vois la bébête, elle se met à chier partout, là, c'est vraiment con, là, le hibou, il chie partout, puis c'est drôle. Fait que c'est genre d'humour cru, gratuit, de même, pour dire le monstre arrive, puis ton petit... bonhomme chevalier qui puis ça fait drôle parce que c'est médiéval comme thématique.
Mais attends un peu, d'habitude tu n'aimes pas les affaires
médiévales. Ben c'est ça, c'est ça qui est weird. J'aime ce jeu-là puis j'aimais ça dans le temps. Tu sais, c'est comme tu passes par dessus parce que c'est pas intense médiéval. Là. C'est vraiment un petit beat'em up. Tu fesses le monde avec un suçon géant. Tu sais, fait c'est pas un Magic Sword plus 4, là, t'sais, même si le suçon il est plus 5. En tout cas, ça c'est un détail du jeu. Mais c'est le fun pour ça. Puis qu'est-ce qui est encore plus cool, c'est que c'est un remastered version qui est sorti gratuit pour Xbox One, vu que je l'avais déjà sur Xbox 360, avec transfert de stats pis tout. Fait que là, je suis comme motivé à continuer mes personnages de dans le temps pis de grinder ça dans le tapis. Fait que je vais sûrement faire des streams de Castle Crashing. À jouer à Castle Crashers puis grinder mes bonhommes dans le tapis là. Je m'ai vraiment fait du fun dans le temps avec ce jeu-là.
Ça vient-tu bien, ce jeu-là, Joe?
Oui, parce qu'ils ont remastered ça un peu. C'est beau, ça. C'est pas. T'as pas l'impression de jouer un jeu de 360, mais en même temps, c'est du 60 frames per second. Là, c'est pas du gros HD fou. C'est du, tu sais, comment dire ça? C'est comme South Park, là, dans un sens, là.
C'est le style de, comme look, là.
Ouais, mais c'est un style d'art, tu sais, c'est pas du gros, intense, HD, high definition, de texture, de peau, là, tu sais, c'est un cartoon dessiné
texture,
drôle.
C'est ça qui fait la différence.
C'est ça, là. Fait que, tu sais, c'est de la belle texture, c'est plus fluide, c'est cool pour ça. Qu'est-ce qui est cool dans la version, remastered, c'est qu'ils te donnent toutes les DLC du 360, même si tu les avais pas, comme moi, je les avais pas achetés, puis là, je les ai toutes, fait que ça me donne une petite motivation de plus à le faire. Puis, c'est ça.
Plusieurs joueurs en même temps, hein, je pense. C'est 4 joueurs en même temps.
4 joueurs en même temps. Puis, j'ai su qu'il y a 31 personnages d'Unlockable en tout. Fait que Je suis comme un grinder de personnage, moi, il m'en faut tout.
Fait que, pour les complétionnistes, dans le fond, il y a quelque chose à être au
rendez-vous. C'est un bon petit jeu le fun. Là.
Il y a une belle petite vibe, je regarde des images en ce moment, c'est comme un peu comme Happy Tree Friends. Là. Ouais. Très cartoonish, très enfantin, mais ultra gore. Là.
Puis il se coupe des têtes, puis les t'arrives, puis il y a des voleurs en train de piller des cadavres, tu sais, puis tout arrive, puis t'es slash, mais les petits bras qui partent, tu sais, mais c'est cute en même temps, là, tu leur coupes des bras à coups de gros suçon géant, plus 5, là, tu sais, c'est des niaiseries de même, là, fait que...
Cool,
puis, je le sais qu'on peut, on fait pas de deuxième sujet, mais je veux juste dire que j'ai pogné 88 issues de Ghost Rider pour 6$ sur eBay, puis je trippe.
Tu vas pouvoir nous compter
un straight, ouais, j'ai hâte de recevoir, parce que c'est un deal.
Excellent, Joe, merci. Guillaume, Alex, qui y va?
Moi, j'étais en vacances la première semaine de septembre. J'étais à faire la visite en Floride.
C'est pour ça que t'étais pas là.
Moi, you guys miss me?
Oui.
Puis, oui, oui, Force Friday, c'est aussi la fête de ma mère. Oh. Fait que,
chanceuse.
Oui, donc c'était double special pour moi. Puis, en tout cas, j'ai pas eu le temps de jouer des jeux à part Morrowind, mais je parle un peu trop d'Elder Scrolls dans ce podcast. Fait que, la semaine passée, j'ai eu la chance d'écouter live le Nothing Show de, comment t'avais dit, de Apple. Ils ont fait le
non-event.
Le non-event, exactement. Puis ça me faisait penser à les derniers mots de Steve Jobs. If you see a stylus, they blew it. Je suis pas sûr si...
Si vous avez vu un stylus, on fait pas notre job en quelque sorte.
Exactement. Okay. Si vous voyez un stylus,
qu'est-ce qu'ils ont annoncé?
C'est un crayon.
Ah, pas un styliste, ok, j'avais
un stylus.
Oh, okay.
C'est ça, nous autres, là, on pensait tous que tu disais quelqu'un, genre, comme qui coiffait.
Ouais, quoi, un styliste.
Un stylus.
C'est vrai que je mélange souvent les deux.
Moi, chaque jour.
C'est pour ça que t'es pogné de même.
C'est ça, exactement.
Ouais, ils ont sorti rien, pas vraiment. Il y avait rien de spécial dans l'événement. J'aimais un peu l'effet avec les photos, que ça prend comme 2 millisecondes avant et après quand tu prends une photo.
Ah,
ça
les live Harry... pictures, que c'est pas des vidéos.
Les Harry Potter background, je trouve ça un peu intéressant. C'est... Puis ils ont ajouté un context menu, comme un right-click dans ton téléphone.
Le 3D Touch, là, il y a
pas ouais, de... si tu pèses sur une image pour, avec un touchpad super sensitif, ça ouvre un menu, tu peux faire un selfie tout de suite, tu peux composer un
comme
numéro.
BlackBerry avait fait dans le temps.
Comme presque tous les autres, ils ont fait. Mais c'est Apple. It's revolutionary juste parce que c'est Apple.
Et il était très fier de nous le présenter aujourd'hui.
Exactement. Et c'est eux autres qui vont dire c'est quoi le hot. Même si ça existait, c'est eux autres qui vont faire le style, c'est quoi le mode avec les mobiles.
Ils déterminent l'avenir, dans le fond.
Exactement.
C'est eux qui décident.
Fait que dans le fond, leur nouvelle Surface va pogner. Puis leur appareil Android de 2013
Surface,
va pogner aussi.
C'est quoi le Surface?
C'est comme un iPad avec un crayon, mais de hipster. Parce qu'ils l'ont fait avant Apple.
T'sais. Non, attends, c'est le iPad le plus gros, right?
Ben yes. Oui. Ben
c'est
oui.
Pas un Surface. Même s'ils ont comme copié des éléments de Microsoft Surface, comme le dual screen, tu peux mettre multitasking, c'est le multitasking. Mm-hmm.
Le stylus, clavier dans le cover.
Le clavier dans le cover.
Le fait que tu aies du right-clicking maintenant comme sur Windows.
Ah, oui.
Mais y a la seule différence...
Révolutionnaire.
La seule différence, je pense qu'il y aurait, puis que c'est ça va peut-être plaire à des gens plus comme Marie Bergeron, qui est avec nous en ce moment sur le chat, ou Christian, qui a eu la décence de nous appeler pour nous dire bonjour avant le début de l'enregistrement, c'est que ces nouveaux appareils-là, le nouveau iPad Pro, même s'il va coûter 3 000$ et je sais pas combien, c'est qu'il permet d'avoir la sensibilité dans le stylus que des
fois... Ce qu'une Cintiq à 3 000$
fait
déjà. Oui, une
Cintiq, on parlait par rapport à la Surface, exemple de Microsoft, qui est juste un stylus tout à fait normal.
Qui coûte la fraction du prix.
Oui, oui, non, mais je suis pas en train de défendre...
C'est juste 99$, 60$.
De quoi ça, la Cintiq?
Okay. Ou le stylus?
Le stylus, c'est 100$ aussi.
À peu près 100$.
OK, il est à part.
Le clavier, le clavier est 300. Okay.
Juste avec le nouveau iPad.
Oui, juste avec le nouveau. Parce qu'il y a de quoi dans le truc. Mais j'ai vu Max, de l'épée légendaire qui a fait sur son nouveau blog techno, qui a fait un peu une critique par rapport à ça, puis c'était intéressant, parce qu'il disait que oui, il y a beaucoup d'empreintes technologiques entre un et l'autre, mais l'iPad est vraiment plus targeté pour les gens, les artistes, tandis que les Surface sont vraiment plus productivité, programmation et autres.
Qu'est-ce qu'il a acheté ça, lui?
Mais non, lui, il n'a pas acheté l'iPad. Il a écouté les conférences, mais lui, il est un fan de Microsoft Windows.
Je vais me payer un blog. Moi, je vais me partir un blog. Qu'est-ce qu'il a acheté ça?
Non, il ne l'a pas acheté. De toute façon, même pas en vente, encore disponible au Canada.
OK, ouais.
Mais non, c'est ça. C'est, il disait que je sens qu'il semble à prime abord se compétitionner, mais c'est vraiment plus se complémenter parce qu'ils n'ont pas le même clientèle cible.
On pourrait-tu noter aussi que Microsoft ont été sur stage?
C'est ça que je voulais. C'est une autre chose que je voulais mentionner.
Alex, continue,
non, c'est correct, mais j'ai trouvé ça super intéressant que Microsoft était même là. Moi, j'ai tout le temps comme un soft spot pour Microsoft. Ils ont fait quelque chose de. Bon, tout le monde utilise Office, tout le monde utilise Windows, ben dans le temps. Et après ça, ils ont rien fait. Mais le Windows 10, Windows 7, ils ont recommencé à comme expérimenter cool. avec des nouveaux technologies, faire des petites choses, tablet market. Puis les produits sont pas mal bons. Même avec le Xbox aussi.
Microsoft, ils ont compris la game, hein, c'est des années. Ils ont aidé Apple à sortir de leur trou des années 90. Mm-hmm. Ils étaient sur stage pour montrer Office dans ce temps-là. Non, mais c'est vrai. Là. Puis, ils comprennent la game. Là. Microsoft understand it's all about the software. It's not about the hardware. It's an old rule that they're following by. Une vieille règle qu'ils suivent puis qui leur donne du succès.
La vraie question, Alex, vas-tu upgrader ton iPhone pour un 6S?
Non. Ben, il faut que je fasse un peu de recherche avec comment ça marche. Ils ont fait des plans pour un an, tu peux avoir un nouveau téléphone chaque 12 mois. Je sais pas exactement comment ça marche.
Ça, parce je peux l'expliquer si tu veux.
C'est 33$, je pense, pour.
Mais ça dépend du téléphone que tu prends, mais tu as un prix qui varie de 30 à 45, que tu payes ça par mois. Mais le but, c'est d'enlever le fournisseur. Fait que dans le fond, tu vas te pogner ton téléphone iPhone à 45$ par mois, on va dire, pour le gros. T'as ton Apple Care, t'as un nouveau iPhone à chaque année aussi, je pense qu'ils disent. Puis après ça, tu choisis ton fournisseur. Sur tous les forfaits mensuels, moi puis André, on va peut-être catcher la joke, là, mais tu peux legit prendre ton téléphone à 45$ par mois puis te pogner Chatter.
Moi, je tiens juste à dire une chose, par contre. Tu peux te pogner Chatter, sauf que en réalité, tu vas économiser 5$ par mois ou 10$ par mois en tant que consommateur. La seule affaire, c'est que tu changes de téléphone à chaque année. Sauf que j'ai hâte de les voir faire ça pour vrai.
Ils ont lancé la première flèche contre la manière que l'industrie du cellulaire fonctionne présentement.
Ce qui est ironique parce qu'en on va y aller. Regarde, écoute, on va y aller. C'est transparent. Apple exige des fournisseurs de garder un forfait premium avec leur téléphone depuis des années pour ne pas détériorer l'image de marque d'Apple. Fait que dans le fond, là, ils ont l'air des sauveurs en disant « Hey, kid, pour 45$ par mois, je vais te donner un nouveau téléphone à chaque année. » Mais depuis le début, c'est eux autres qui l'obligeaient. Donc, c'est un peu...
Mais c'est le rational, c'est de donner un iPhone à tout le monde. Mettre un iPhone dans les mains de tout le monde.
Mais il aurait pu le faire depuis le début. C'est ça que je mentionne dans mon argument. C'est qu'il aurait pu le faire depuis le début. C'est eux qui étaient le frein de la limite. Donc,
avant, ils jouaient sur l'effet de rareté et de exclusivité, si on peut dire, que t'es hot quand tu en as un. Puis là, c'est comme Alex, il dit, en mettant des mains à tout le monde pour que ça devienne le standard puis la base, pour que le monde dise plus un cellulaire, puis que tout le monde dise un iPhone, même si dans le fond t'as un Android dans les mains, ils vont dire hey, ton iPhone, comme un frigidaire qui a dans le fond c'est un réfrigérateur, mais un
téléphone qui t'écoute.
Ta mère qui dit tu joues à Nintendo, mais dans le fond tu joues avec ta Xbox One, tu sais,
c'est cela.
C'est juste mettre.
Ça, on pourrait
le...
faire tout un autre sujet là-dessus. Ouais.
Mais c'est le branding qui vise pareil, là, c'est ça.
Alex, quelque chose à rajouter en terminant?
Je vais sûrement upgrader mon iPhone. Battery life, c'est pas bon sur le 5C.
Ouais, parce qu'elle est excellente sur le 6 aussi.
Moi, le pire, là, c'est parenthèse. Moi, j'ai décidé, là, une couple de mois, que mon prochain téléphone, c'était pas être un iPhone. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va sortir. Je sais pas si je vais aller pour celui qui sort l'année prochaine, mais moi, c'est déjà une décision. Là. Je m'en vais pour un iPhone, mon prochain téléphone. Puis, j'ai trouvé ça cool. C'est weird que je dis ça, là, parce que je suis un des. un des plus gros haters. Mais c'est juste que mon expérience iPad m'a juste convaincu que comme les affaires que je peux faire avec mon iPad, je trouve ça trop simple. Puis j'aime ça. J'aime que ça soit tout simple. Comme du Photoshop sur un iPad, désolé, là, mais c'est simple. Comme fais ça avec de quoi plus spécifique, avec un stylus qui est plus avancé, puis tu gardes cette simplicité-là. Anyway, je veux pas déraper.
Merci Alex. Guillaume?
Moi, je vais ramener la discussion dans des terres d'austérité. Un peu plus...
Attends, austérité quoi?
D'austérité.
Austérité quoi?
C'est comme... Tu sais, la plèbe.
Là. Couillard, là.
Le monde, tu sais, le vrai monde, là. Lui, il nous parlait de ces espèces de d'utopie à 3 000 $, là. Tu sais, moi, je suis plus comme avec Milter, là, tu sais. Des lait au chocolat à 1 piastre, puis des comics à 6 piastres sur eBay. Mais on sait tous que, justement, en ce moment, le dollar canadien, ben, il vaut pas de la merde. Puis, nous, en tant que geeks, on est pas mal dépendants du dollar canadien. Peu importe ce que tu te nourris comme geek, que ce soit du jeu de table, du jeu de rôle, du Magic, du Dungeons & Dragons, du comic book, du jeu vidéo. Non, c'est pas les compagnies qui sont plus gourmandes, qui veulent juste fourrer les Québécois parce qu'elles sont des pleutres et whatever. Ça s'appelle un taux de change. Il y en a plein de gens qui vont se reconnaître dans nos discussions. Il y a plusieurs groupes geeks, pas nécessairement le nôtre, mais à travers le Facebook et les interwebs qui ont eu des discussions à ce sujet-là. Et le taux de change, ça suce quand c'est pas équitable. Puis moi, ben étant donné que tu sais, je veux continuer à consommer ma geekitude et je veux quand même garder mon pouvoir d'achat, je me suis dit comment puis-je geeker out en économisant de l'argent. Puis dans une sortie culturelle avec mon petit garçon, j'ai été à la Grande Bibliothèque de Montréal et quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'il y a des bandes dessinées. Il y a des graphic novels à faire rivaliser à peu près n'importe quel comic book shop de Montréal. Tu peux louer des jeux d'Xbox One, Xbox 360, PS3 et un peu de
c'est
PS4.
C'est de la culture.
Hein?
Ouais, c'est de la culture.
Oui, non, je suis pas là pour bâcher ça, au contraire. C'est que là, moi, je suis arrivé là, je voulais emprunter des documentaires de dinosaures pour mon fils, puis je suis sorti de là avec genre 4 graphic novels, puis 2 films, puis là, j'ai pas pris des jeux Xbox parce que je suis en train de jouer à Skyrim, mais ce que je voulais dire, dans le fond, c'est, on s'entend, en plus, ils sont tous cartonnés, là, regarde, vous allez entendre, là. Ça, c'était pas moi qui ai gagné sa table, j'ai gagné sa BD, là. C'est du hardcover made dans bibliothèque, c'est que tu sais, j'ai pas la culpabilité de l'échapper à terre ou de mettre trop de graisse de doigt dessus. Puis...
Donc, tu te fous des biens publics.
Non, je fais attention. Mais, d'un autre côté, je fais pas de la parano, tu sais, tu comprends? Je suis pas super angoissé quand, mettons, mon chat décide de se promener proche de ma pile de BD qui est pas rangée ou autre.
Il s'essuie pas les mains entre chaque poignée de chips puis tourner les pages.
Ah, non, ça, j'irai pas jusqu'à manger des chips en lisant mes BD. Mais, tu sais, j'ai pu vous donner un exemple, là. J'en ai amené 2 avec moi. J'ai Superman for Tomorrow. On s'entend que ça date pas de cette semaine. Ça a une couple d'années, mais c'est quand même un classique.
Oh!
Oui, ça date de demain. Non, mais c'est quand même un classique écrit par Jim Lee. J'ai Silver Surfer Requiem, qui est un excellent volume, qui est un peu, en gros, l'histoire de Silver Surfer qui se meurt et qui, et un peu déprimé. En fait, j'ai même pas fini de le lire, c'est que je pourrais pas vous spoiler à la fin. Mais j'en ai pris 2 autres. J'ai pris Avengers et un autre Superman. Mais en tout cas, ce que je vous dis là, si vous avez pas votre carte de bibliothèque, allez la chercher. Ça vous coûte 0. On s'entend que vous habitez à Montréal. Si vous habitez à Montréal, j'imagine que les bibliothèques de Laval ou de la Rive-Nord ou de la Rive-Sud vont pouvoir satisfaire vos besoins.
Nous, on a juste Martine dans sa tectonique.
Je suis sûr que si tu fouilles un peu, tu peux trouver de quoi, tu sais. Peut-être des Michel Vaillant, mais il y a d'autres choses aussi. Mais c'est quand même intéressant, là, je veux dire, il y avait des, tu sais, il y avait comme presque toutes les Halo, il y avait, on s'entend, il n'y a pas une grosse, le jeu vidéo, si j'ai regardé vite, c'est pas là, t'es loin d'être dans un micro-play
ou un
big game.
Tu parles des BD, jeux, excuse, ou les jeux?
Non, il y a des jeux vidéo aussi.
Si
vous êtes un fan de manga, il y en a, écoute, 3-4 racks plein, français, anglais, s'il y en a, tu sais, la BD européenne aussi est souvent laissée pour compte dans nos conversations. Il y en a encore plus que les BD américaines. C'est que, tu sais, moi, je suis pas un gros fan, mais tu sais, peut-être que je vais m'amuser à essayer des nouveautés puis aller le lancer. Écoute, je m'en fous que le dollar canadien vaut 50 cents ou 1,50. Ça me coûte toujours rien. Puis c'est tout, tu peux tout les réserver, tu peux faire des recherches en ligne, c'est que tu te déplaces pas pour rien. Moi, je trouve que c'est la garde. Stephen Harper pour aller se réhabiller, j'ai la grande bibliothèque.
Quand t'es pas certain, en plus, de vouloir débourser ou de quoi, mais tu le loues avant, puis après, tu le sais, je veux
l'acheter. Ah, ben oui, puis les Walking Dead, la seule affaire, je dirais, c'est si vous voulez lire les Walking Dead, eux, sont, ils partent rapidement, faut qu'ils réservent. Mais on s'entend, c'est Walking Dead, c'est comme le gros trend.
C'est bien populaire.
Comme dans n'importe quelle autre affaire, c'est toujours pareil, là.
Ça, c'est l'émission avec les vampires, right?
Ouais. Les vampires homosexuels avec des côtes de cuir qui ont des camaros.
Cool.
Avec un drapeau sudiste sur le toit de l'auto aussi.
Confédéré, qu'on dit.
Confédéré.
Ah oui, confédéré. Excusez-moi. Confédéré.
Mort au drapeau confédéré si on s'en fie aux États-Unis.
Oui, je suis d'accord.
Une photo de Kim Davis.
On fait-tu une minute de silence pour le drapeau confédéré? Ou non?
Oh, moi, je pense qu'on a déjà assez fait
une
de silence.
Une minute de bruit pour le...
En fait, ça a-tu affecté la vie de quelqu'un, le drapeau confédéré?
Une coupe de redneck, là, c'est tout.
Ouais, je pense qu'il y en a
ceux qui avaient des, se sont fait des tatous, là, en Caroline du Sud.
Ouais,
là.
C'est quoi ton tatou à rien? Quoi ça veut dire?
Un rien malaisant. Guillaume, quelque chose à rajouter?
Ben, j'en ai assez dit, je pense. Ouais. Mais de toute façon, si je commence à en dire trop, les gens, ils auront plus d'autonomie, ils voudront plus, ils vont tous attendre que je leur dise tout quoi faire.
Moi, je back vraiment Guillaume parce que je vous l'avais dit, je pense que c'était Eric, j'en parlais la dernière fois, j'étais allé à la bibliothèque avec mon gars, puis moi, je check tout le temps la section de BD pour adultes, qui a des vieux Spider-Man, des vieux Batman, puis tout. Puis à un moment donné, je check mon gars m'amène dans les DVD, puis tout, puis je vois, oh shit, des jeux d'Xbox One, tu sais, c'est comme, c'était pas les meilleurs, nécessairement, mais je me dis peut-être que les bons, ils étaient tous loués, puis que moi, j'étais pogné pour louer à Cabela, chasseur, je sais pas quoi, là, braconning. Fait que j'étais pogné avec ce jeu-là, mais tu sais, c'était, en tout cas, il y a d'autres jeux gratis. Hein.
Ben, parlant de jeu, j'ai une petite actualité pour vous cette semaine. J'ai découvert un jeu qui est fait par la compagnie Bluebird Team SA, qui est sorti le 27 août 2015 sur Steam en Early Access. En gros, il y a beaucoup de monde qui avait joué le jeu, puis là, comme de fait, j'en parle, puis ça va m'évader. Le jeu qui était fait par Kojima, qui était comme un prequel de Silent Hill sur PS4. Eric, j'ai besoin de toi. C'était quoi le jeu prequel de Silent Hill sur PS4 qui ont retiré, justement...
Silent Hill.
P.T. là.
P.T. Ouais. Donc, il y a beaucoup de monde qui ont joué à P.T., qui ont trippé là-dessus, qui ont aimé ça, c'était cool. Donc, moi, je vais vous parler cette semaine de mon expérience avec Layers of Fear. Layers of Fear, qui est un jeu sur Steam que je me suis procuré pour environ une dizaine de dollars, où on incarne le rôle d'un un genre de peintre fou qui essaie de finir son magnum opus, donc c'est comme l'apogée de son art. C'est très inspiré par les peintures de l'ancienne décennie à ce moment-là. C'est fucké, ok? C'est carrément les graphiques sont le fun. Ça m'a rappelé un peu un genre de Gone Home pour les gens qui ont joué sur Steam mélangé avec P.T. Donc beaucoup d'épouvante. J'ai fait des bons sauts à date, je l'ai pas fini. Les reviews sont super positifs sur Steam. C'est un early access, mais il y a une touche de finition à ce jeu-là qui est intéressante. L'immersion, il joue vraiment. Tu sais, c'est le genre de jeu que t'as deux gars dans une pièce qui ont dit on va fucker avec le cerveau des gens, puis tu sais, c'est comme check bien ça, on va faire freaker le monde. Je veux pas que le monde se sente bien en jouant à ça. J'ai acheté ça un genre de vendredi soir à comme 10h, ça brosse. Hein, Joe?
À la Milker.
Les meilleures décisions. Non, mais j'ai commencé à jouer à ça, puis, tu sais, c'est le genre de jeu que je jouais avec quelqu'un, puis on avait peur les deux, on faisait des sauts, puis j'étais pas nécessairement à l'aise de continuer. L'histoire, puis la manière que ça se déroulait me donnait envie de participer à ce jeu-là. Ouais, ouais. C'est vraiment cool.
Je regarde des images, je leur dis
un petit Google Image Search, puis je suis comme nope.
Ben, il y a eu plusieurs moments de nope dans ce jeu-là. C'est juste cool. Je vais le streamer un peu pour vous.
Ouais, ce serait le fun. J'ai le goût de voir.
C'est le genre de truc qu'on va mettre dans les streams du mercredi qu'on va implanter sous peu. On va en parler un peu à la fin de l'épisode. Mais Layers of Fear, 10$, 99$, il était en vente, moi, à 8,99$, je pense, quand je l'ai acheté. Mais même à 10,99$, je l'aurais payé.
Mais quand tu vois le deal à 8, puis t'es un vendredi soir un petit peu chaud, tu peux pas résister. Avoue que tu fais, oh, c'est-tu, un deal.
Ben non, mais c'est parce que déjà, je suis à la maison vendredi, j'ai bu un petit peu, ou tu sais, même je pourrais être à jeun, mais tu sais, je me dis, hey, je suis pas sorti de chez nous vendredi, achievement unlocked. J'ai économisé au moins 100$. Fait que tu sais, je peux me permettre de dépenser 10$, tu sais, parce que, non, mais.
Je vais rajouter cet argument-là à ma liste.
Non, mais vous allez rire un peu de moi, mais j'ai une théorie qu'en 2015 et les années subséquentes, quand on quitte sa demeure, ça coûte un minimum de 50$.
Ouais,
tu vas mettre du gaz, tu vas manger un petit quelque chose, tu vas acheter quelque chose ou tu vas boire quelque chose. Ça coûte 50$ sortir de chez nous. Fait que maintenant, je sors plus, je me coupe pas les ongles, puis je construis des maquettes de d'avions antiques.
Puis tu marches avec des boîtes de Kleenex d'un pied.
Exactement, parce que j'ai peur des germes. Mais Layers of Fear m'a permis de battre plusieurs préconceptions que j'avais et de me retrouver dans la démence d'un peintre. Fait que allez essayer ça, Layers of Fear.
C'est un peu comme l'expérience de la beurre de peanut, là.
Opération Beurre de Peanut.
Ouais. Jessica Barton.
Ben écoute, j'avais pas d'Asiatique qui s'en avait mis ses couilles à côté de moi, fait que je pourrais pas te dire. Mais si Layers of Fear était du Beurre de Peanut et j'étais Asiatique, laisse-moi te dire, Eric, que j'aurais les couilles pleines.
Parce qu'à la fin, il y a André. Un peintre qui est fou, c'est pour ça.
Ah!
Moi, j'étais allergique.
OK, je peux pas jouer, OK. Là, Milton, je peux pas jouer à ça.
Ta métaphore, elle fuck tout le fun.
Milton, il est rendu qu'il a peur du jeu. Là.
C'est possible que j'ai pas... j'ai manqué, mais c'est quoi le gameplay? C'est point and click ou...
Ouais, mais c'est plus. Ben moi, je joue avec un controller. Mais tu peux faire point and click. Effectivement, t'avances, tu cliques. Mais en fait, c'est que tu rouvres tous les tiroirs, tu vois des affaires. La seule chose que j'ai moins aimé, c'est que moi, j'ai joué dans le salon sur le projecteur. Puis des fois, tu sais, pour l'immersion, tu trouves une lettre, puis là, tu la lis, puis la lettre est rédigée par, je sais pas, moi, une fille qui est sur le bord de péter une crise d'apoplexie, puis en même temps, elle démente. Puis elle écrit qu'une plume antique qui fait des taches d'encre à tous les pouces carrés. Fait que dans le fond, tu lis la lettre, puis tu fais dire « calvaire que ça va mal ». Fait qu'un moment donné, j'ai commencé à me foutre un peu du texte, comme le Journal de Montréal. Mais, non, je niaise. Référence de RBO,
quand même. Non, pas ça. Tu skippes le lore encore.
Non, mais... J'ai pas skippé l'heure. Non, mais juste dans ce cas-là, c'est parce que j'étais pas capable de le lire. Mm-hmm. Puis j'ai continué. Mais les lettres que j'étais capable de lire, par exemple, c'était le fun. Quand il y a des images, je les lis.
Donc, si tu la faute à la images, lettre, tu la fais à ton projecteur.
Non, mais je lis le texte quand il y a des images. Non, c'est pas la faute du projecteur. Le projecteur est cool. Puis j'ai rejoué sur l'écran d'ordi après. Puis en réalité, c'est juste parce que, tu sais, ils sont victimes un peu de leur immersion ou ils ont voulu en donner un peu plus pour du fanservice. Pas ce genre de fanservice, là, Minter. Oh. Mais c'est juste le fun. 10$, comment. C'est quand la dernière fois que tu as fait « Hey, je peux vraiment pas acheter ça, c'est 10$. » Il aurait mis à 9,99$, il en vendrait plus, par exemple. Mais là, il est 10,99$. C'est une barrière psychologique de dépasser.
C'est vrai.
Donc, Layers of Fear, sorti le 27 août 2015, c'est sur Steam, c'est en Early Access. Et présentement, ce que je veux faire, par contre, je veux vous lire, justement, des critiques drôles de Layers of Fear. Premièrement, « It's like taking LSD without actually taking LSD. » Et un autre critique quand même assez drôle, donnez-moi deux petites secondes.
Imagine prendre du LSD puis jouer.
Really scared game, 11 sur 10. Ooh. Ou un autre qui a été quand même coté pas pire. I haven't been this afraid of a game in a very long time, yet I've enjoyed every minute I've played so far. The plot is very dark and the further you go, the more sinister and vile it turns. A true masterpiece, pun intended. Ça a été coté comme funny, comme review. Ça devrait pas être funny comme review, non. Ça, sur Steam.
C'est peut-être sa mère qui est allée...
Masterpiece. Ce que tu disais, c'est que c'est du fanservice un peu comme Until Dawn. Yes. C'est-à-dire, pas de fanservice.
Ouais, ben non, c'est ça, exactement. Il y a des gens qui jouent à Until Dawn, puis il y a des gens comme moi qui jouent à Layers of Fear.
Il y en a qui jouent à Mario Maker, on peut pas tout être parfait.
Hein. Exactement, mais c'était ce qui s'est passé dans les dernières semaines pour le collectif. Donc, on va prendre une courte pause, rafraîchissement, et on vous revient avec le sujet de la semaine. On va parler podcasting. On va parler podcasting, tout comme on l'avait fait au début du podcast. Ça fait 3 ans que le projet évolue et on a des opinions qui ont peut-être changé, des nouveaux gens qui se sont joints à nous. Puis, on va pouvoir discuter de cette merveille créature qui est le podcast. De retour dans 5 minutes.
Je sais toujours pas c'est quoi.
C'est une balado-diffusion, Eric et Jonathan.
Ouais, Eric.
Oui.
De retour dans 5 minutes. Donc, de retour après cette courte pause de ravitaillement. Guys, est-ce que vous êtes prêts? On a un gros épisode ce soir.
Oh, toujours prêt.
Toujours prêt, comme les scouts. Alex, les toi, scouts. T'es pas prêt?
Quoi?
Salut, Alex.
Oh,
moi, salut. C'est André. Lui, c'est Guillaume, ça, c'est Milter, puis Eric.
What year is it?
On enregistre un podcast présentement. Donc, Guys, cette semaine...
I was in Jumanji.
Oh boy. The Jumanjis? Donc, cette semaine, on enregistre un podcast à propos de podcast.
Oh. Méta.
Fait que là, c'est un peu méta, c'est un peu
podcast
weird.
Podcastception.
Ok, prenez la photo de chat, là.
Non, moi, je prends une photo méta du stream qui est moi en train de prendre la photo du stream.
Mais toi, t'es en train de faire un périscope du chat. All right. Donc, épisode podcast cette semaine. On a déjà fait un autre épisode, je crois. C'était l'épisode quoi? L'épisode 8? L'épisode 18? L'épisode...
Je sais pas.
Regardez les premiers épisodes du collectif. On a déjà parlé du sujet du podcasting. En gros, ça fait 3 ans... et quelques épisodes. On a des opinions qui ont changé un petit peu. On va parler podcast. On va avoir un certain niveau de transparence avec vous ce soir. Il y a déjà beaucoup d'autres émissions qui sont exprimées sur le sujet. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà parlé de leurs ambitions, de ce que la business devrait être, des choses comme ça. Ben, c'est à notre tour de donner notre grain de sel sur le merveilleux domaine du podcasting que nous exerçons depuis déjà 67 épisodes que vous écoutez ce soir, le 67e.
Oh oui.
Guys, avant de débuter, petite activité brise-glace. Là, je me sens super corporate. On va tout présenter un podcast qu'on écoute et qu'on aime, que les auditeurs ne connaissent peut-être pas présentement. On va se donner environ... on va prendre peut-être un 3 minutes chaque.
C'est bon, ça.
Est-ce que quelqu'un pourrait mettre un timer de 3 minutes? Quelqu'un peut... Eric, je te vois avec ton téléphone portable intelligent.
Ouais, ben je vais aller... Tu sais quoi? Je vais avoir un timer, mais basé... Je suis sous contrôle du temps.
OK. Eric, tu es donc sous le contrôle du temps. Donc,
je fais plus confiance à...
Okay, here's the timer. That's a...
C'est un gars, Siri, toi?
Oui. Ah. Il m'appelle girlfriend en plus.
OK, fait que girlfriend va s'occuper du temps. guys, 3 minutes, on va présenter un podcast qu'on écoute. Puis, on va expliquer un peu à quoi ça consiste. Ce qui est le fun, c'est que là, vous écoutez Le Collectif, c'est un podcast de culture populaire geek. Par contre, on va vous faire découvrir des podcasts qui ont peut-être rien à voir avec le domaine geek. C'est des trucs qu'on écoute sur une base quotidienne. Donc, qui veut débuter?
C'est genre on devait appeler ça dans le podcast où ce que on va tout arrêter pour écouter. Il y en a un qu'on attend à tout. Je commence?
Ouais, vas-y donc. Vas-y donc, Eric.
J'écoute des
podcasts. Est-ce que tu es prêt avec le temps, girlfriend?
Oui.
Excellent. Donc, c'est parti.
J'écoute bien des podcasts, puis je vais pas toutes les nommer, mais je suis plus dans le NPR scene des États-Unis. Moi, j'écoute la radio parler, les documentaires de radio depuis les années 90. Là. Je veux pas être genre hipster podcast, là, mais quand tu fais toute expérience audio que tu as sur... Dans le temps où c'était des shows qui se passaient là-dessus, des serials, des annonces, des documentaires. Mais moi, j'ai trippé ces documentaires des années 90. Puis Radiolab, j'ai découvert ça, je pense, direct au début du podcasting. Puis c'est un show que je sais pas comment expliquer, mais c'est des histoires un peu mis au ton de la musique. C'est tellement bien monté. C'est un gars, Jad Abumrad, qui fait ça, puis le... Sincèrement, c'est un des gars plus cool que je pense dans le monde du editing de podcast, parce que c'est un gars qui est entraîné en musique, tripé de musique, mais quand il fait son show puis il le monte, il ajoute tellement comme du son, de l'ambiance. Si quelqu'un parle d'une place, d'une chute en particulier, ben tu vas entendre la chute qui coule. C'est vraiment des expériences cool comme ça. C'est co-animé avec un gars qui s'appelle Robert Coleridge, qui était un de ses premiers sujets, mais qui est devenu vite un ami, puis ils ont commencé à collaborer ensemble. Puis c'est ça, c'est un show de science qui rend la science, des sujets de science vraiment épiques, mais ça le simplifie, puis ça te le fait dans un trip audio de 60 minutes avec 3-4 différents points de vue. C'est pas mal ça. C'est
cool.
Puis une de mes émissions préférées, j'ai tombé sur ça. Comme en ce moment, il parle d'un rhino hunting. Tu te donnes une idée des sujets qui touchent, puis t'as un gars qui s'était fait martyriser aux États-Unis dernièrement parce qu'il avait tiré un black rhino. Fait que c'est sûr que ça fait la polémique. La minute que t'as une photo de quelqu'un qui tue un endangered species, ben c'est la polémique sur Internet. C'est très facile à like, puis à enrager, puis à dire comment est-ce que cette personne-là est horrible.
Comme un certain dentiste dernièrement.
C'est ça.
Moment de silence pour ça.
Mais en Afrique, comme ça, c'est le dernier ça qu'ils ont fait. Puis en Afrique, il y a beaucoup de private reserves qui vendent des chasses comme ça pour préserver leur environnement parce qu'ils n'ont pas de support du gouvernement, ils n'ont pas de support des dons publics. Fait que pour sauver des environnements comme ça, ça prend du cash. Puis il y a bien du monde qui vendent, en exemple, ce Black Rhino-là, mais ils vendent les plus vieux, un petit peu comme pas en forme, mais qui revirent fou puis qui attaquent tout. Mais ils vendent, eux, à des chasseurs qui bident à des gens de auction weird, là. $36,000, puis ils bident pour aller tuer un Black Rhino. Puis après ça, t'as un gars qui poste une photo de ça, quelqu'un qui capote. Puis il explique dans Radio Lab comment est-ce que c'est un des points de vue. C'est que quand tu l'argent que ça fait, puis éliminer ce mâle-là du troupeau, ça augmente les chances d'avoir plus de bébés, plus de 30%. Mais il monte les deux. Puis c'est toute une expérience incroyable avec t'entends un gars qui voyage en Afrique, etc. Puis c'est ça. Puis il y a plein d'autres sujets vraiment malades qui enlighten. Aussitôt que t'écoutes ça, tu apprends.
En terminant, Eric, on trouve ça où?
C'est NPR. C'est quelque chose qui joue sa radio de New York. Là. C'est de NPR, l'affiliate d'NPR à New York. Là, ça me glisse un peu en ce moment. Puis tu peux le télécharger. Il y a une application qui coûte 2-3$ qui te permet de tout voir dans le passé, réécouter les blog posts et tout. C'est une belle, belle application. C'est ça. C'est disponible en ligne. Tu peux Radio Lab. Là, puis c'est un show de radio.
Merci pour la découverte, Eric.
Ah, plaisir.
Guys! Qui y va?
Me dérange pas, je peux y aller.
Melter, prépare-toi. C'est parti.
Moi, le show, ça s'appelle Distorted View Daily. C'est un podcast que ça fait environ 7-8 ans qu'il roule. Je l'écoute depuis environ 5 ans, je dirais. Le gars que j'ai su avant, il s'est animé par un gars qui s'appelle Timothy Tim Henson. Timmy Boo pour les intimes, souvent dans son show, ou plein d'autres mots ultra méchants qui se fait crier par ses fans quand il appelle au téléphone. C'est un show d'humour, mais d'humour assez trash et cru. C'est monté un peu, il y a des thématiques à tous les jours. C'est un show quotidien, là. Le gars il fait une demi-heure 45 minutes environ par jour, puis c'est gratuit. Mais il y a des types d'abonnements que le gars il fait qui est genre à tous les mois, toutes les années, toute à vie, puis des affaires de même, c'est genre 5$ par mois, puis c'est moins cher, là, en plus que tu prends des gros abonnements. Mais ce monde-là, ils ont du contenu additionnel. Moi, je le paye pas personnellement, puis regarde, je suis très satisfait avec tout ce qu'il me donne. Mais le gars, c'est de tout. Il parle de l'actualité, il y a des segments qui s'appellent Fucked Up News, puis c'est souvent des nouvelles qui viennent de la Floride, parce qu'il y a comme il y a même une toune thématique là, pour dire la Floride, notre état le plus fucké des États-Unis. Là, puis il y a tout le temps des nouvelles vraiment weird qui viennent de là. Il fait de l'humour, faut que tu sois ouvert d'esprit, parce qu'il y a beaucoup d'humour comme raciste ou des fois homophobe, mais le gars, il est gay, tu sais. Pour te donner un exemple, ben, il rit de ça, là, tu sais. Il fait jouer des fois... c'est juste audio, mais des fois il dit bon, on va aller faire jouer une compilation de Pet de Noun. Fait que tu sais, t'es à job pis t'écoutes ça, tu l'écoutes avec des écouteurs. Parce que tu sais pas qu'est-ce qui va sortir en plein milieu. Tu sais jamais avec quoi qui va partir l'émission. Des fois c'est des gros remix, dubstep, de vidéos sur YouTube, mais juste l'audio. Il y a des segments, ils appellent ça les U-tard. Fait qu'il va pogner des retardés qui font des vidéos sur YouTube. Puis il dit bon, on va faire un petit daily catch-up de qu'est-ce qui se passe dans la vie de tel gars, puis là, il nous compte ses affaires, il fait jouer des clips, des fois, il fait des affaires comme qui est plus fou, des crazy redneck ou des grosses noires du hood, fait que là, il fait jouer une phrase d'une grosse noire sur YouTube, puis une phrase d'un redneck, puis là, il fait des faux meters, tu sais, c'est de l'humour très trash et cru, mais... Il est tellement drôle, le gars, il anime tellement bien, c'est faut que tu sois ouvert d'esprit, puis tu sais, le gars, comme... Plus tu l'écoutes, plus tu sais que c'est pas comme il est pas méchant dans ses propos, c'est vraiment de l'humour. Puis même que des fois il s'attaque à d'autres gars que des gros républicains ou des gros religieux américains là, puis il fait jouer des extraits de leur affaire. Puis tu vois que il haït plus ce monde-là que quelqu'un qui fait une joke sur un noir ou un gay ou un musulman.
C'est
ou
quoi déjà le nom?
Distorted View Daily. C'est ça le titre.
C'est comme un contrôle, mais en
podcast. Tu le pognes sur iTunes, tu le pognes un peu partout. Il y a le gars, sérieux, il y a un site web plein des applications. Tu peux downloader des zip files. de toutes les shows de 2014, genre, tu sais, exemple.
Le tagline, puis, c'est « An adult comedy podcast for freaks ».
Ouais, « freaks », c'est comme ses fans, là, si on peut dire. Puis, ah, j'ai oublié un des points importants, juste à me dire, ben vite, il y a une affaire qui s'appelle « Sextastic Tuesday », c'est une de ses thématiques. Tu sais, Gabrois, il s'est fait un peu mettre dans marde avec une cassette qu'il a écrit pour Maggie Lou Wolf, si on peut dire. Mais ben, lui, à chaque mardi, c'est pas lui qui l'écrit, mais il fouille des Reddit louches, là, tu sais, pis des affaires vraiment underground internet. Il gagne sa vie avec ça, le gars. Il fait juste ça, là. Fait que, tu sais, il passe ses journées à fouiller des affaires louches. Puis il lit une lettre de fanfiction, si on peut dire, là. Un fan service, fanfiction. Mais, tu sais, il pogne des affaires comme la dernière fois. C'était Bill Cosby et Bruce Jenner en Caitlyn Jenner. Une histoire de, si on peut dire, d'amour. Puis ça donne que Donald Trump, il arrive à la fin là-dedans. Il est chum avec Bill Cosby, puis il s'amuse avec Caitlyn. Puis c'est très vulgaire. Fait que lui, il se fait pas arrêter, puis il lit ça à tous les mardis. Je pense qu'ils ont été rough.
Je viens de réaliser... Parce qu'il n'y a pas de Sophie Durocher en Floride.
Ouais, c'est ça, pas... En tout cas, c'est...
Je viens de réaliser que tu t'inspires beaucoup à faire ça toi-même, la manière que tu t'exposes sur Facebook souvent, puis ben, tu aimes trouver des choses louches, là, puis le partager.
C'est un peu de même, ouais. Là. C'est pour ça que ça me touche beaucoup. Fait que tu sais, quand t'aimes les affaires... crasse, trash, cru, anglophone, naturellement. Ça va à peine, c'est drôle.
Je vais faire un segue avec le podcast de Milter. Tu peux partir mon timer, Alex, dans le fond. Moi, dans le temps, j'avais parlé de Pointless, qui est le podcast de Kevin Pereira. Kevin Pereira qui animait Attack of the Show. Dans le fond, c'est pas mal une des raisons pourquoi j'ai commencé à faire du podcasting. Ce gars-là m'a inspiré beaucoup. Je trouve que c'est un très bon animateur. Puis ce qui est cool, c'est que avec sa boîte Super Creative, le podcast a comme pris un peu d'expansion. C'est maintenant devenu un projet qu'ils vont appeler The Attack. Donc, The Attack, c'est sur twitch.tv/The Attack. C'est l'émission de Kevin Pereira et Alex Correa. Dans le fond, c'est les lundis, mercredis et vendredis. C'est à 7h l'heure de l'Est. Donc eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir leur podcast interactif, ils vont en parler avec les gens, ils vont interagir avec les users sur Twitch. Ils vont faire des séances de live stream souvent, ils ont beaucoup de contenu différent. En gros, il y a eu une transparence totalement et véridique au départ de Kevin Pereira qui a dit: écoute, nous on repart un show qui s'appelle The Attack, le but c'est de ramasser du cash puis d'aller faire un genre de nouveau Attack of the Show. Donc, quelque chose qu'on pourrait faire à chaque jour, quelque chose qu'on pourrait se permettre de vous présenter à chaque jour, qui ferait la tournée de qu'est-ce qui s'est passé sur Internet, qu'est-ce qui s'en vient comme gadget, etc., etc. Ils sont pas rendus à cette étape-là encore. C'est sûr, pour un projet qui est quand même bien backé, ils sont rendus à 390 patrons sur Patreon. Ils font 4327$ par mois environ. Ce qui leur a permis d'engager quelqu'un qui fait toute la post-prod pour eux, ce qui leur a permis de pouvoir prendre un petit peu d'expansion dans l'équipe. Mais ce qui est cool, c'est que pas mal tout est connexe avec ça. Donc, Pointless fit dans la vision de The Attack, etc. Ils ont leurs locaux. C'est juste cool, le stuff qu'ils font, honnêtement. C'est juste le fun de jaser avec eux autres, faire du fun, se faire donner les nouvelles par leur point de vue. Ils font des trucs un peu assez intenses pendant qu'ils sont en direct. Eric, je pense que tu avais un commentaire que tu voulais rajouter.
G4, on sait pas trop ce qui se passe avec ça aux États-Unis. Il y a un site. Il y a encore la chaîne.
Ouais.
En fait, ça a été racheté par.
Je le pogne encore à TV, mais il y a rien qui joue là.
En fait, c'est une.
C'est comme. J'ai Cosmopolitan.
C'est Esquire
qui ont racheté G4. C'est encore Esquire.
Ils ont décidé de pas rebrander, ça, je m'en rappelle. Ouais.
Puis ce qui est arrivé, c'est que c'est devenu un genre de bourbier à la musique plus, là, où ils rachètent du contenu, ils savent pas trop quoi faire avec. C'est un peu drôle parce que Musique Plus est en train de faire des shows que j'aurais vu à G4 il y a 10 ans. Je trouve ça cool parce que c'est le contenu que j'aurais aimé voir à G4, comment ça a l'air à Musique Plus. Fait que props à Musique Plus parce que vous commencez à développer le côté web, côté télé. Par contre, c'est ça, c'est que The Attack, moi, ma recommandation, c'est pour les gens qui veulent quelque chose de léger. On se prend pas nécessairement au sérieux. On va se faire parler de trucs qu'on aime. C'est niaiseux, c'est des gars qui ont un humour qui vient me chercher un peu noir, un peu sarcastique, un peu
délusionnel. Ils ont des personnalités cool, je trouve, le monde là-dedans. Là. Comme tu dis un peu, ils sont sarcastiques, drôles, mais ils savent de quoi ils parlent, puis ils gênent pas nécessairement pour exprimer une opinion.
C'est pas le crew. Mais dans le fond, tu sais, t'as Kevin Pereira qui est là.
Pas des animateurs, mais avant, il y a les gars qui ont poussé Pereira, là, qui avaient fait un studio. C'est qui les autres encore? Je sais qu'il y a un genre de collectif en arrière de ça, de podcasting, que Joe Rogan participe avec aussi.
Ouais, mais c'est plus avec eux autres présentement. C'est ça, carrément c'est séparé. C'est ça. T'sais, il est parti de son côté, Kevin. Il a voulu faire ses trucs. Puis en gros, c'est ça. Twitch.tv, slash The Attack, lundi, mercredi et vendredi. Allez regarder ça à 7h, heure de l'Est. Donc souvent, je pense que ça va être l'après-midi ou quelque chose de même. C'est juste le fun. C'est du divertissement. Moi, je le mets en background puis j'aime ça l'écouter.
Ouais, t'es curieux, Kevin.
Ouais, petit side à ton sujet, c'est vrai que c'était carrément le Pointless, puis G4, qu'est-ce qu'il faisait, c'est plus le côté Musique Plus. On s'entend-tu que Musique Plus, avec la programmation qu'il y a à Faster, il y a juste temps qu'il fasse le move, le gros move, puis dire Musique Plus, c'est mort, on rebrand.
Ben, je pense qu'il n'y aurait même pas besoin de le refaire.
C'est vu dans leurs actions.
C'est ça. Parce ouais, que le non, nom mais... est tellement fort de Musique Plus, puis le monde s'attend plus à avoir la musique à Musique
que
Plus.
Je trouve qu'il est rendu qu'une connotation négative, que je pense de l'appeler juste d'une autre façon, le monde, après 2 ans, oublierait, puis ferait comme juste ça, c'est le post-cool avec des bons shows de, qui sont jeunes et Internet, et quelque chose, je sais pas. Je dis ça de même. Là. Peut-être qu'il y a encore du monde qui sont rattachés au nom Musique Plus. Là.
Ben, tu sais, c'est une institution. C'est vrai, pardon. Peut-être qu'il pourrait le changer,
mais
tu sais,
rendu là... Coup, puis de CRTC en l'air de ça.
Puis rendu là, tu sais, tant qu'à faire un move de même.
Je sais pas.
Donc, Guillaume, Alex, qui y va?
I'll go.
Alex?
Ok, vas-y.
Ah, ok, je pensais que tu me faisais signe d'y aller.
Coordination.
Je papier, ciseaux, les gars.
Ouais. Ben, moi, je vais continuer dans la veine américaine et anglophone. Ça va de soi. Je parle pas espagnol.
Y a-tu des podcasts américains francophones, excuse?
Non, mais il y a sûrement des américains espagnols, par contre.
Ouais.
Mais moi, ceux qui sont des écouteurs assidus depuis que je suis parti de l'équipe m'ont souvent entendu parler de Kinda Funny, qui est en fait un groupe de 4 personnes qui étaient jadis à l'emploi de IGN et qui ont tout laissé tomber pour partir leur propre aventure de podcasting, de vlogging et sur YouTube et toutes les plateformes. Je vais être honnête avec vous, avant de découvrir Kinda Funny, le seul podcast que j'écoutais de façon religieuse et assidue, c'était le Geek Collectif. Ça fait full têteux, je l'assume, mais les mystérieux étonnants que j'écoute une fois de temps en temps, le Radio Talbot, c'était pas assez marquant. Puis le Kinda Funny, c'est eux qui m'ont comme fait embarquer dans le train du podcast à temps plein. Eux, ce qu'ils font en fond, c'est qu'ils ont plusieurs channels, ils ont séparé les channels. Moi, celui qui me plaît le plus, c'est leur channel de tous les jours. Il y en a un qui est dédié aux vidéos. Moi, il m'intéresse aux jeux vidéo. Il est intéressant, mais il m'attire moins que l'autre. L'autre, c'est un peu la même formule que nous, on a. C'est-à-dire, ils vont prendre chacun des sujets différents. La formule est pas identique, là, sinon, il aurait pas été très original de nous copier. Mais,
c'est sûr qu'il nous
dans un épisode de 2 heures, chaque intervenant amène un sujet et ils discutent pendant une certaine période de temps, de 15 minutes à 35-45 minutes selon la durée du sujet. L'épisode sort pour les membres Patreon le vendredi et sinon on peut aller l'écouter gratuitement sur YouTube du lundi au jeudi ou sur SoundCloud si vous avez, mettons, juste là, vous voulez l'écouter juste en mode audio. En gros, c'est des gars de l'industrie du jeu vidéo. Ils font des fois des émissions en direct de, mettons, du PAX Prime où ils ont été à GameSpot.com ou GameStop. Là, GameStop, ça, c'est le magasin.
GameStop.
Non, mais GameStop, c'est le jeu vidéo, ça, le magasin.
GameStop, c'est les magasins. Ouais. GameStop,
eux, ils ont une convention. GameStop a une convention à Las Vegas.
Ouais.
Qui était là, justement. Ils étaient là, eux autres, récemment. C'est vraiment intéressant, puis c'est des gars qui ont aussi des personnalités, un peu comme nous autres, là. Encore une fois, je trouve qu'ils nous copient pas mal, des personnalités qui sont pas mal toutes différentes, des backgrounds qui sont un peu différents, puis c'est le fun parce que justement, ils parlent des fois de trucs qui sont plutôt tabous, ils vont parler de trucs très humoristiques, ils parlent de politique, ils vont parler de, comme le sujet d'aujourd'hui, c'était, selon vous, combien de temps vous serez capable de vivre dans un aéroport sans vous faire pogner de temps? Parce que c'était un peu un lien.
Ça dépend. Est-ce que je suis Tom Hanks ou est-ce que je suis pas Tom Hanks?
Mais tu sais, c'est exactement ce qu'il parlait. Donc, est-ce que tu veux
déguiser? Ils nous ont copié encore.
Mais non, c'était intéressant parce que justement, eux, ils relataient le fait qu'ils viennent de finir leur saison justement de convention puis ils ont comme passé tout l'été dans les aéroports, dis-je en ayant un peu des allergies qui me montent au nez.
Donc, Guillaume,
Kinda Funny. qui est, en fait, ils sont disponibles sur plusieurs plateformes. Donc, allez sur le kindoffunny.com. Vous allez avoir des liens à leur podcast vidéo, podcast audio, la cédule, les forums, le Patreon, le magasin, tout. Tout
puis, toi, le segment que tu parlais un peu, c'est plus le Game Over Greggy.
Oui, ouais, le nom de l'émission, c'est le Game Over Greggy Show, qui est l'émission un peu de tout aller. Puis, ils sont super chummy-chummy avec tout le monde. Ils font des... ils sont associés avec souvent The Attack, Kevin Pereira, ils ont été... Rooster Teeth, ils ont été à leur convention et aussi GameSpot, qui est l'autre, à ne pas confondre.
Merci beaucoup, Guillaume. Alex, c'est à toi de... Pas de pression, tu termines le segment.
Récemment, j'écoute... La majorité des podcasts que j'écoute sont... qui parle un peu de social justice, féminisme, politique américain. Puis récemment, j'ai découvert quelqu'un qui s'appelle Steven Crowder.
J'avais peur que tu dis Murphy Cooper.
Murphy Cooper. un gars qui s'appelle Steven Crowder, c'est un gars de Montréal. Il vient de Montréal, mais il a déménagé à les États-Unis. Puis il fait un podcast. Il a des invités spéciaux. Puis moi, je savais pas. J'ai vu quelques clips. J'ai entendu certaines choses. Puis après ça, j'ai remarqué que le gars est American conservative. Puis ça, c'est un peu différent que mes vues personnelles. Mais je trouve ça intéressant d'écouter quelqu'un de l'autre côté. Du other side of the fence, other side of the spectrum, tu sais. Puis il y a des choses que je suis d'accord avec. Fait que ça a changé un peu mes vues à propos de certaines choses. Le gars est très drôle. Il y a des choses que je suis pas d'accord avec. J'embarque pas trop là-dedans. Mais il y a des choses que je savais pas. Puis il a expliqué d'une façon intéressante. Il fait un show presque chaque semaine, à peu près. Il y avait Dean Cain, je pense le mois passé ou deux mois en tout cas, c'était was recent. Il y avait Dean Cain qui est là, puis c'est la deuxième fois qu'il est là.
Il parlait de quoi avec Dean Cain?
Avec Dean Cain, Gamergate. Il a parlé un peu de Gamergate avec lui.
Les boobs de Terry Hatcher.
Il a expliqué un peu parce que lui,
sont-ils vrais ou pas vrais?
Lui est un gamer. Seinfeld. Ça je savais pas. Lui puis son fils sont des gamers puis. Fait qu'il a expliqué un peu de Gamergate. Il y a un autre gars que j'aime aussi, il s'appelle Milo Yiannopoulos, qui est un journaliste à Breitbart. C'est un gars gay, he's usually a guest, qui a des vues complètement différentes. Il a changé comme certaines choses, moi aussi, mes perceptions de en tout cas, la vie sociale, de social politics. Puis, ouais, c'est un bon format. Il y a beaucoup de jokes, il y a des fake commercials un peu partout. Puis j'aime son format. Même si je suis pas d'accord avec certaines choses, je trouve ça intéressant de challenger mes points de vue.
Moi, je pense que c'est quelque chose qui devait être éduqué à tout le monde, ça. Surtout avec la possibilité des podcasts. On va parler de le pouvoir du podcasting. Mais pouvoir, comme quand t'es jeune, quand tu vas à l'école, la première chose que tu devrais apprendre dans la vie, c'est qu'il faut que tu entendes et tu comprends l'opinion opposée de la tienne. Je pense que c'est important. Puis les podcasts te permettent de faire ça.
Ouais, un echo chamber.
Ça va te tuer, puis c'est la fin du monde. C'est l'affaire c'est l'affaire la plus fucking dangereuse qui existe sur l'Internet en ce moment. Mais les podcasts, tu as tous les points de vue que tu peux aller piquer dedans. Puis ça, c'est...
Mais je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est que premièrement, tout le monde autour de la table. Merci, Alex.
Yeah.
Je t'ai coupé la parole. Avais-tu quelque chose que tu voulais terminer avec? Ce qui est intéressant, dans le fond, c'est qu'on a tous un peu des habitudes de consommation de podcasts qui sont un peu reflétantes de nos personnalités. Tu sais, Milter qui écoute le underside du web du podcasting, Guillaume qui écoute le truc... c'est très structuré dans les boîtes, que là, il y a le show de gaming, il y a le show de culture, il y a le show de ci, il y a le show de ça. Éric qui écoute la science poussée dans les points de vue. Toi qui écoutes les causes sociales. Moi qui écoute l'animateur de show qui fait des années que je veux faire exactement la même affaire que lui. Mais en réalité, Éric, tu touchais une corde quand même assez importante, c'est que les gens, tu sais, Alex écoute un podcast de personnes qui partagent peut-être pas nécessairement des opinions, mais sous le même titre que Doc Mayou a déjà eu une émission de radio pendant des années, les gens ont eu des lignes ouvertes, des choses comme ça. Je pense que pour avoir un bon podcast, tu sais, on l'avait fait dans l'anatomie du cartoon, j'ai préparé une anatomie d'un podcast dans le fond. Donc, premièrement, c'est les thématiques abordées. Donc, on trouve une thématique, on trouve un sujet. Il y a des podcasts de bière, de char, d'avion, de finance, de web, de peu importe. Il y a des podcasts qui existent pour tous les goûts. Il y en a à certains niveaux de qualité de production différents, mais par contre, chaque auditeur peut trouver du contenu qu'il va apprécier.
Si, ça peut être très niche, excuse de te couper, là, mais c'est, tu peux aller dans l'extrême niche du podcast qui va décortiquer juste tel type de film, exemple, tu sais. Puis comme nous autres, exemple, des fois, qui peut être tellement vaste qu'on peut justement parler de quelque chose. Puis des fois, c'est un peu les personnalités dans ces podcasts-là qui ressortent.
Mais t'apportes un point important, un autre composante d'un bon podcast, c'est la personnalité dans ce moment-là. Ouais. Qui l'anime, qui participe, ça va faire la force et parfois va faire la faiblesse d'une balado, mais des gens qui sont dedans. Il y a également le contenu, un podcast, corrigez-moi si je me trompe, messieurs, mais un podcast est quelque chose qui est un peu sans limite. La seule limite d'un podcast va être celle où les balado-diffuseurs vont s'imposer. Donc, voulant dire...
Totalement.
Un podcast peut faire 3 heures de durée, peut durer 15 minutes, peut avoir un show à chaque demi-heure, peut parler de n'importe quel sujet, on peut sacrer, on peut ne pas sacrer, on peut... Il n'y a aucune vraiment limite dans le podcast. C'est ce qui fait un peu qu'il y a un Far West du podcast présentement, surtout au Québec. On est hautement influencé par ce qui va se faire chez nos voisins du Sud au niveau des États-Unis, qui vont avoir un podcast qui va être hautement influencé par la sphère des vedettes. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que pour avoir un bon podcast, autrement dit, l'anatomie d'un podcast, faut avoir une thématique claire, nette et précise, faut avoir l'imagination puis une création de concept, faut avoir de la personnalité et un contenu qui va être à ce moment-là très défini, avec limite ou sans limite. Donc ça, c'était un peu l'anatomie qu'on vous présente. Tu peux en ajouter, Eric, effectivement.
L'authenticité,
effectivement.
L'authenticité, puis l'honnêteté. Être honnête. Si tu ajoutes ça à ça, ça va juste aider la scène de podcast partout à être meilleure.
Mais je pense que ça fait partie beaucoup de la personnalité aussi à ce moment-là, parce que les gens, souvent, qui vont faire de la balado dans un contexte non professionnel, c'est des gens qui vont être 100% authentiques et transparents, parce que c'est des gens que dans leur tête et eux autres, ils vont avoir des croyances, puis ils vont tout simplement faire ce qu'ils croient.
Ils veulent en parler de leur passion, fait qu'ils sont comme un livre ouvert. Puis...
Exactement. Donc, un des sujets que je voulais qu'on touche rapidement aussi, là c'est sûr, en 2015, nous, ça fait 3 ans qu'on fait ça, on connaît le domaine. Il y a toujours une certaine rivalité ou même un comparatif qui existe depuis la nuit des temps. On a tendance à comparer les podcasts contre la radio et la programmation en contenu déjà existante. Donc, voulant dire pourquoi j'écouterais un podcast quand je peux écouter la radio. Présentement, les podcasts ont pris une tournure aussi beaucoup plus vidéo à ce moment-là avec l'apparition des Twitch, les chaînes YouTube. Je pense que même avant même qu'on embarque en onde aujourd'hui...
Un podcast, c'est un stream aussi, je comprends.
Mais le podcast avant était défini par le fait que c'était un épisode téléchargeable. Donc, ça pouvait être vidéo ou audio. Mais c'était le podcast, téléchargeable
c'était
pour écouter.
Audio? Moi, je pensais que c'était audio.
Vidcast,
mais en réalité, le podcast, le vrai terme puriste, englobait le fait que c'est un fichier audio téléchargeable. Donc, on pouvait l'écouter sur notre iPod, sur notre laptop, peu importe, mais c'était une émission de contenu qui était téléchargeable. Là, ça semble avoir dilué un peu
les
avec
frontières
le temps.
Se merge pas mal.
Exactement. C'est difficile de faire la différence entre un channel YouTube qui va faire la diffusion de contenu à chaque semaine, comme un PewDiePie.
Mais je pense que
t'as
dit vidéo sous demande, puis t'as dit audio sous demande. C'est deux choses différentes.
Exactement. Donc, à ce moment-là, le terme podcast semble être un terme en constante évolution.
Excuse de challenger ça.
C'est
nouveau pour moi.
Mais c'est bon que tu le challenges, parce que en réalité, où je voulais en venir un peu avec mes skis avec ça, c'est que t'as un peu une ancienne garde et la nouvelle garde. Donc, les gens qui vont dire « Non, un podcast, c'est un MP3. Faut que tu le télécharges, c'est juste de l'audio. » Puis, il y a des gens qui vont dire « Ben, écoute, un podcast, à la limite, ça peut être du vidéo aussi également. Ça peut être un paquet de trucs. » C'est qu'il y a une évolution constante à ce moment-là. Et selon moi, puis je vais vous laisser vous exprimer aussi également là-dessus, mais selon moi, c'est ce qui fait la force comparativement aux médias traditionnels. Comparativement à une radio qui va être dans l'auto des consommateurs à chaque soir avec des pubs, contrairement à une grille de programmation qui va être une chaîne télévisée ou des trucs comme ça, le podcast est sur demande Et le podcast, à ce moment-là, vient dans un format qui va être adaptable à tout le monde. Prenons juste notre épisode. Ben, présentement, il y a des gens qui nous écoutent en direct sur Twitch. Il y a des gens ensuite qui vont télécharger notre fichier audio qui vont nous écouter. Il y a des gens qui vont nous écouter en rediffusion sur Twitch pendant un bref moment pendant que les vidéos sont disponibles.
Disponible au 900 sur Illico.
Exactement, ça c'est sous peu. Mais en réalité, c'est un des éléments de différenciation. Mais j'aimerais entendre vos opinions là-dessus un peu. Médias traditionnels versus podcast.
Ben, moi, je pense qu'on a déjà gagné un point en takedown les grandes gueules l'année passée. il reste juste à sortir Peter McLeod de la game, puis on est en train de gagner du terrain. Mais non, mais sérieusement, c'est pas pareil. Puis, je sais pas si je peux me permettre de rentrer dans le géopolitique tout de suite.
Ben oui.
Mais au Québec, c'est d'autres choses en plus qu'aux États-Unis. Tu sais, aux États-Unis, il y a des podcasts que le monde... Oui, c'est très niche dans un sens, c'est un sujet très particulier, mais le monde, ils veulent l'écouter, c'est viable, c'est connu de beaucoup de monde. Versus ici, le monde ne sont pas encore nécessairement habitués ou même au courant que il y a des podcasts à écouter. Fait que déjà des pognées en audio seulement, ça peut être tough de faire s'asseoir à un certain rendez-vous devant leur ordinateur pour écouter quelque chose. Puis en même temps, ailleurs, souvent, comme tu as parlé tantôt un peu, aux États-Unis, c'est de la vedette un peu qui est mis de l'avant, tu sais, des fois. Ça peut être tentant aller chercher, ah, je l'aime bien, cette personne-là, ou de quoi. Tandis qu'au Québec, pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gros noms, autres, peut-être Denis Talbot, qui est plus connu, Mike Ward, qui a fait son show, qui, là, il y en a un nouveau qui vient de recommencer, en plus, j'ai oublié le nom. Puis, il y avait avant, puis même là, je suis pas sûr qu'il triperait, si je dis une personne connue, mais Frédéric Barbucci, qui faisait de l'impro pis tout. Il y a du monde qui vont le connaître un peu de la TV puis peut-être l'aimer.
C'était un pro, lui-même.
Son podcast. Oui, c'était incroyable, son show. Mais, tu sais, je veux dire, il n'y a pas des gros noms qui vont attirer des gens vers ce média-là encore. Fait que les médias traditionnels ou la radio plus traditionnelle qui vont pas nécessairement parler de ça, parce que c'est comme parler d'un compétiteur, puis je trouve que c'est un peu...
Mais il y a plusieurs...
C'est unfair un peu, dans le sens que non, on parlera pas de son podcast, on parlera pas de quelque chose, parce que ça donne la visibilité à quelqu'un, parce que il y a bien du monde que je connais qu'une fois qu'ils sont tombés dans les podcasts, ils ont commencé par un podcast. Des fois, c'était parce qu'ils me connaissaient, ils ont dit « Ah, c'est quoi ton podcast? » Ok, hey, là, j'y parle un mois après, il dit... J'ai écouté tous vos épisodes en ligne. Là, c'est comme tabarouette, ok. Oh, ouais, pendant deux semaines à job, là, j'écoutais rien que ça. Puis, t'as-tu d'autres choses à me conseiller? Fait que là, ben, je suggère un peu de tout, là, du monde dans la gang que je connais, tu sais, que je me dis peut-être, tu sais, mais.
Mais Guillaume, tu semblais avoir un.
Oui, mais, tu sais, pour revenir un peu, comme tu disais, par rapport à ce qui va faire l'unicité du podcast sur la radio traditionnelle, je pense qu'il y a deux aspects, quant à moi, là, qui viennent un peu complémenter ce que tu disais, Jonathan. Il y a l'accessibilité du médium. Parce qu'on s'entend, un podcast, oui, tu peux jouer dans ton iPod, mais tu dois être abonné sur iTunes, dans le flux RSS, le sync. Tandis qu'une radio, tu ouvres ton char, tu l'as. On parlait aussi tantôt du contenu niche. Mais la radio satellite, Sirius, XM et compagnie, ouais, vont aller chercher le contenu niche. Par contre, tu n'as pas l'aspect intemporel. C'est-à-dire, tu l'écoutes là, puis that's it. Par contre, il y a certains podcasteurs qui sont diffusés sur des radios satellites, surtout aux États-Unis, puis qu'eux, justement, vont, par leur propre effort, vont justement archiver leur contenu, mais c'est jamais le diffuseur qui va faire. C'est que oui, je pense que la grosse différence au niveau de la, je vais pas dire sémantique, mais plus au niveau de la structure technique, c'est vraiment le direct versus le
sur-demande.
Le sur-demande ou dans l'archivage. On voit Radio-Canada qui fait beaucoup d'efforts à rendre des parcelles de ses émissions écoutables par la,
fait des années qu'ils font ça.
Oui, mais il y a des fois, c'est juste des petits extraits. Comme exemple, si tu regardes 98.5, moi, là, c'est les meilleurs moments. Tu vas avoir un interview.
Mais les documentaires, puis les affaires de radio, de Radio-Canada, qui sont encore très professionnelles.
Exact.
C'est sur demande. Ils font très, très bien ça, je trouve.
Oui, comme les émissions là, de Mathieu Dugal qu'on peut réécouter. Sauf que encore là, à la base, au début, c'est une émission de radio qui a justement été enregistrée. Donc, est-ce qu'on peut considérer ça un podcast? Ça, c'est un débat, j'imagine, pour une autre fois.
Non, ça va être mis ici. André, il essaie de faire ça des vidéos aussi, là, fait que tout est sur la table.
Ouais. Mais mon dernier point, c'était plus l'aspect aussi générationnel. Tu sais, maintenant, il disait, genre, des gens avec qui je travaillais ou des amis, souvent, ça va sous-entendre que c'est soit des gens qui ont la même mentalité ou le même âge que nous. Donc, tu sais, si je parle de podcast avec ma mère ou mes oncles, ou des gens plus âgés, exemple au travail, ça va pas les chercher parce qu'au début il y a un aspect nouveauté, puis des fois il y a une petite réflexion au changement, mais c'est plus tout simplement que eux c'est comme pas normal. Puis tu sais, on parle souvent des gens qui délaissent le câble, ils délaissent la radio traditionnelle parce que justement ils se reconnaissent pas dans les grandes gueules, ils vont aller se reconnaître dans les personnalités qui vont aller chercher qui les ressemblent ou qui les challenge. Mais je pense que si on veut généraliser les générations, ont un gros jeu à jouer là-dedans.
Mais tu touches un point sensible quand même où j'ai eu la discussion récemment parce que les gens m'ont fait un comparatif avec les cord cutters. Cord cutters, qui est le phénomène des gens qui vont se délaisser de leur abonnement au câble, qui vont se délaisser de l'abonnement assis pour avoir un abonnement Internet. Le seul point que je voulais apporter à la table là-dessus, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui vont faire du cord cutting, du cord shaving. Par contre, ces gens-là écoutent le même contenu. Les gens vont délaisser leur abonnement au câble parce qu'ils vont trouver le même contenu, donc les téléséries, sous d'autres formes de plateformes. Il y en a beaucoup, malheureusement, que c'est avec le piratage, on doit être honnête, qui est peut-être pas nécessairement un médium qui va aider l'industrie dans plusieurs années, mais faut faire attention avec ces deux choses-là, parce que je suis d'accord avec toi, Guillaume, où tu disais, tu sais, c'est un enjeu de disponibilité, c'est un enjeu générationnel aussi également, où il y a certaines personnes qui vont avoir le réflexe d'y aller. Les gens qui vont écouter du Radio-Canada, effectivement, vont avoir le réflexe parce qu'ils vont dire, ben, vous avez manqué un segment ou des choses comme ça, le contenu va être disponible en ligne. Donc, les gens sont habitués d'aller réécouter ces segments-là. Par contre, de découvrir la scène, parce que on doit être honnête, on a tendance au Québec à avoir une scène de podcast où les gens qui vont connaître le podcasting vont écouter des émissions très niches, des émissions comme nous, des émissions comme Les Mystérieux, qui vont écouter Rétro Nouveau, Trois Bières, etc. Et on est plusieurs épisodes, plusieurs émissions en fait, plusieurs diffuseurs de contenu qui vont avoir des recettes différentes. Mais par contre, ces gens-là doivent quand même nous trouver. Mm-hmm. Donc, on dirait que la différence un peu, puis tu sais, je vais y aller un peu avec la mondialisation du podcast, mais ce que Joe a mentionné, c'est que on en parlait un peu avant de tomber en onde, donc pendant l'enregistrement, mais aux États-Unis, le podcast est rendu une manière pour les vedettes d'aller chercher un following tel que Twitter ou Facebook. Donc avant, on se créait une fanpage Facebook. Puis, ben, on mettait des photos de nous autres, des affaires de même, on faisait des publications, puis on allait chercher un reach incroyable. On prend des vedettes comme Stephen Amell, des choses comme ça. Y a d'autres sortes de personnalités, par contre, aux États-Unis, qui ont décidé de se lancer dans le podcasting. C'est sûr qu'on a eu Howard Stern qui a pavé les routes. On a eu
Joe Rogan,
le gars qui fait Turtle dans l'entourage, que j'ai oublié son nom, qui fait le Bad for Business podcast. C'est ça, exactement. Donc, aux États-Unis, il y a un genre de culture où les vedettes ont compris l'exposure du podcast et ont pris ce virage-là ensemble. Donc, aux États-Unis, ce qui arrive, c'est que les gens écoutent des podcasts de vedettes, d'animateurs de télé, et c'est des side projects de leur job. Ces gens-là continuent d'être acteurs, continuent d'être animateurs, mais vont faire leur podcast. En Europe, en France, souvent, ça va être un podcast qui va être un peu plus éducatif à ce moment-là. Des gens qui sont reconnus par leur père comme étant des références dans le domaine, des podcasts historiques, des podcasts de trucs. Et au Québec, on dirait que c'est là que les lignes s'entrecroisent. On veut faire comme nos collègues aux États-Unis. Donc, tout le monde rêve de pouvoir vivre de son podcast. Et faire
mais aux États-Unis, là, excuse de te couper. Mais tu parles beaucoup de l'Europe avec du monde plus professionnel, éducation, etc. mais comme le NPR puis tout qu'est-ce qui est public radio puis public TV aux États-Unis, c'est justement un peu qu'est-ce que le podcasting c'est.
Mais c'est la même chose qu'au Canada avec Radio-Can qui est à ce moment-là.
Mais c'est ça, c'est pas nécessairement, ouais, c'est État, mais c'est pas la même chose.
C'est l'équivalent, sauf que n'empêche que ça c'est une infime partie. C'est ça, mais c'est une infime partie versus en Europe, c'est que ce qui va être répandu va être l'éducatif.
C'est du TF1, là, c'est du monde, c'est du national aussi. Là,
ce que je voulais en venir, c'est que ici au Québec, c'est un peu un genre de melting pot. Les gens vont se voir, même nous, c'est une formule qui va être très américanisée. C'est 5 personnes qu'on s'entend que je vais me faire croiser à l'épicerie, puis le monde n'a aucune foutue idée de je suis qui. Puis des fois, à Comic-Con, je vais croiser quelqu'un qui va m'entendre parler, puis il va faire « Hey, t'es le gars du collectif ». Puis cette personne-là va me connaître par l'entremise du podcast, mais c'est un peu couillu au Québec parce qu'on se permet de faire « Hey, je vais m'enregistrer, je vais diffuser le contenu, je vais le mettre sur Internet, puis les gens vont l'écouter. » Versus un Joe Rogan qui a déjà son following, puis qui fait « Écoute, j'ai déjà du monde qui m'écoute, je vais me payer une plateforme où je peux dire ce que je veux, faire ce que je veux, enregistrer ce que je veux, je le finance de ma poche, puis je vais aller me chercher encore plus de followers à ce moment-là. » Ou des gens en Europe qui vont faire « Ben écoute, moi je suis la référence dans le domaine historique, donc ça me permet de pouvoir... » Il y en a aussi, exactement. Mais c'est, je trouve ça un peu...
Puis aux États, ils ont tous des pubs, là, puis il n'y a personne qui dit rien.
Ben, il y a beaucoup de commandites.
Tout le monde a des commanditaires, tout le monde a des publicités, tout le monde a des écrivez le mot code de telle affaire pour avoir un rabais de 20% ou un
c'est
report
normal,
gratis. Mais ouais, non, je sais, mais je parle là-bas, il n'y a aucune honte. Il y a aucune, puis tout le monde en a un, tout le monde, aucune honte, tout le monde sait que c'est quoi. Il y a
mais croyez-vous que, ici, à ce moment-là, au Québec, la seule différence, ce soit peut-être la connaissance et la disponibilité du produit. Voulant dire,
le manque d'information,
on a tendance à se dire que iTunes est la plateforme de prédilection pour les podcasts. Par contre, avec l'arrivée des téléphones Android, c'était un peu plus difficile d'accès à ce moment-là. Donc, est-ce que les gens connaissent c'est quoi, premièrement, un podcast? Deuxièmement, ont les connaissances pour aller s'équiper pour pouvoir écouter ces podcasts-là? Et est-ce que c'est assez disponible? Donc, voulant dire, il y a des gens que ça va être sur SoundCloud, il y en a que ça va être sur leur site web, sur Twitch, à d'autres endroits. Donc, c'est un peu un questionnement qu'il faut se poser là, en tant que balado-diffuseur.
Mais je vais faire quelque chose que j'aurais jamais cru faire ever de ma vie. Là. Je vais citer Michel Blanc. Michel Blanc l'a dit il y a quelques années pour expliquer pourquoi justement certaines plateformes numériques avaient des tendances à ne pas être adaptées aussi rapidement au Québec. Alors qu'au Québec, on est technologiquement parlant 2 ans en retard dans les trends par rapport aux États-Unis. C'est-à-dire que, puis on généralise, c'est-à-dire la population at large, les mononcles, les matantes, puis les gens, pas juste en région, en Montréal et ailleurs, excepté les, ce qu'on appelle en bon français les early adopters, qui sont principalement des geeks, sont en général 2 ans, 3 ans en retard. Puis dans des milieux encore plus niches, ça peut aller encore plus loin. Donc ce que t'expliques un peu avec tantôt, pourquoi en Europe, il y avait exemple, ce qui est prédominant, c'est exemple des podcasts plus éducatifs, informationnels, documentaires, puis aux États-Unis, c'est les vedettes. Mais aux États-Unis, il y avait cette situation-là, il y a, mettons, 7, 8, 9, 10 ans, où est-ce que c'était des podcasts très niche, très éducationnel.
Ouais, là, attends, en Europe, là, c'est encore ça aux États-Unis.
Oui,
je comprends pas
là encore, mais on parle juste
fini.
De masse. On parle généralement.
On parle pas que c'est fini. On parle
Radiolab, c'est 1.8 téléchargements
mais,
par semaine.
Éric,
mais je parle
exemple,
at large, là, la
on,
masse.
On parle généralisé.
Nous au Québec, en ce moment, la masse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écoute Le Banquier, puis elle écoute, tu sais, Occupation Double et compagnie. Puis imaginez, pour faire un parallèle avec Joe Rogan, c'est comme si, mettons, Stéphane Massicotte, là, je sais pas, le gars qui joue dans les films de, ou François Massicotte, un humoriste connu.
Un comme Mike Ward.
Ouais, mais connu de la, Mike Ward est pas aimé de la population en général.
Ah, mais il est connu.
Il est connu, mais je parle, mettons, de Normand Brathwaite, là, ou l'autre, là, Stéphane, tu sais, là, qui joue dans les films, là. Ou Éric Salvaille, il part un podcast. Là, les mononcles et matantes, qui est l'expression souvent utilisée sur le web pour expliquer la génération en général, va embarquer ou va commencer à connaître ce qui se passe. Ma mère va savoir, hey, Éric Salvaille fait un podcast parce qu'il a parlé à son émission à TVA ou je sais pas quel poste. Puis c'est ça que Joe Rogan fait. Puis nous, au Québec, justement, c'est pour, ça explique ce qu'André disait un peu plus tôt. Pourquoi est-ce que c'est les podcasteurs qui écoutent les autres podcasteurs, on est justement ce qu'on appelle ceux qui adoptent les technologies plus rapidement, puis on reste entre nous autres, mais on est un peu à l'avant-plan, puis les autres, on, tarde à venir. Donc, il y a cet aspect-là, puis il y a l'aspect population, tout simplement.
Ouais, c'est le plus gros aspect, ça. C'est, parce qu'on on regarde aux États-Unis, puis on parle comme que c'est juste des vedettes qui font ça, puis c'est etc. Mais le pourcentage de personnes aux États-Unis qui écoutent des podcasts, mais il est drette là avec le montant de vieilles au Québec qui aiment Mélique Salvaille, là, je veux dire, il y a des millions de personnes aux États-Unis, il y a un plus gros pourcentage qui écoute des podcasts.
Je serais curieux de voir c'est quoi.
Même aspect. Mm-hmm.
Non, mais au niveau du ratio, là.
Ah, sais-tu quoi, j'ai même pas de stats, là, mais je serais prêt à dire qu'on est dans le 2 à 3 millions d'Américains adultes.
Oui, mais là, tu parles en stats absolus. Ce que je veux dire, c'est... Donner un exemple. Ben, on va parler de chiffres. Aux États-Unis, ils sont...
330 millions.
Exactement. Au Canada, on est 33 millions. Donc, on parle d'un ratio 10 fois plus nombreux.
Oui.
C'est que je veux savoir, moi, ce qui me rend un peu plus curieux, c'est qu'au Québec, on est moins de, on a à peu près 7 millions et demi.
Ouais.
Est-ce que... Si on va juste parler Canada et États-Unis, est-ce qu'au Canada, on est 10 fois moins... d'écouteurs de podcast qu'aux États-Unis.
Si c'est une très bonne question à poser.
C'est un pourcentage, moi, je pense que
aller chercher.
Parce qu'en nombre absolu, c'est sûr que les Américains vont nous sacrer une volée, étant donné qu'ils sont 330 millions.
Non, mais je suis en train de caler une possibilité de 3 millions à 4 millions qui sont une audience de podcast aux États-Unis.
Mais c'est 1%.
Mais c'est ça que je dis. Fait que le transfert ça avec les
chiffres. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse à savoir, c'est est-ce qu'au Québec, on a juste 1%? Exemple. Est-ce qu'on est...
Mais c'est ça, c'est des chiffres qu'il faudrait qu'on
mais peut-être qu'on est... Imagine si, étant en retard, notre ratio est plus bas. C'est que peut-être qu'aux États-Unis, le podcast perce à 1%, mais nous, au Québec, on est à 0,5% peut-être.
Ça l'aide encore moins.
Ça l'aide encore. C'est ça que je veux dire. Mais qu'on rend ça encore plus niche.
Tout
au
est
niveau
là
de
pour l'accessibilité, en tout cas. Parce que tout le monde a un téléphone intelligent dans les poches, puis moi, je les écoute juste sur mon téléphone. Là. C'est, je suis tout inscrit à ça. Fait que n'importe qui a accès à un podcast. Le problème rendu c'est là, c'est que le monde... on soit aucune idée c'est quoi,
comment.
Ou soit comment aller le chercher, ou juste quel podcast je devrais aller me chercher, quel qui est pour moi, ils sont perdus.
Mais en réalité, Joe, où je voulais en venir, c'est qu'on là, je crois qu'on a couvert le quota de disponibilité, on s'entend, il y en a des émissions... Il y en a plusieurs.
Il y en a beaucoup.
Ils sont disponibles. Ils sont là et ils attendent juste ça.
Si t'es bilingue, ça ouvre beaucoup de portes.
Exactement.
Si on s'entend, là.
Mais le
mais
tu touches une corde.
Mais
juste un instant, Guillaume. Tu touches une corde très importante, Joe, qui est la connaissance. Tu sais, c'est un peu là-dessus que je vous posais la question au départ. C'est que, premièrement, quelle émission je vais chercher? Quelle plateforme j'utilise? Tu sais, parce que j'ai beau avoir mon téléphone intelligent dans les poches, mais on s'entend que faut donner le chapeau à Apple là-dessus. Apple ont rendu ça très facile d'accès. Il y a l'application podcast, la section podcast dans iTunes, tout passe par un truc. Un utilisateur d'Android à ce moment-là, c'est très vaste, c'est très intimidant à ce moment-là comme domaine. Comment on incite les gens à découvrir le monde du podcast? Comment les gens peuvent établir des connaissances? Comment je peux les télécharger, les plateformes à utiliser? Parce que, corrige-moi si je me trompe, mais c'est un peu dans cette direction-là que tu allais, voulant dire... Je sais qu'il y a du contenu, je sais qu'il y a du stock. Je sais peut-être pas lequel qui est pour moi, par exemple. Je sais peut-être
mais
même pas comment les essayer.
C'est un
aussi,
peu ça, parce que la première étape, en tant que telle, c'est quelqu'un te demande, c'est quoi un podcast? Tu dis, ben, c'est comme une émission radio sur Internet. Là, que tu t'en dis, ah, OK. Là, il y a l'application, comme tu dis. Mais une fois qu'il l'ouvre, là, c'est quand même intimidant dans le sens que c'est comme, ben, quoi, je clique-tu sur la première affaire qu'il me suggère? Ou j'essaie de trouver de quoi pour moi. Fait que là, c'est comme rentrer plus en profondeur puis de prendre un risque. Moi, il y a beaucoup de podcasts plus américains là, que j'ai fait comme « Ah, OK, il a de l'air à parler de comic book, lui avec, puis lui avec. Comment ça, puis ça va être quelqu'un qui est bon? » Ils sont tous cotés 5 étoiles. J'en prenais un épisode de chaque. Puis il y en a un, je partais, puis je faisais comme « Oh, le son, il est pas bon, je serais pas capable de t'offrir celle-là vraiment pas. »
Là, tu viens de mettre le doigt sur un des problèmes justement qui affecte.
Ben,
c'est la catégorisation. Même dans iTunes, il y a un problème par rapport
à ça. En tout cas, mais rendu là, c'est de trouver qu'est-ce qui est ton affaire. Mais une fois que tu le trouves, c'est là tantôt que je voulais un peu en venir quand je parlais versus la radio. Une fois que tu trouves ton affaire, le monde, il en veut souvent plus. Puis après, il passe au travail d'un show comme, tu sais, One Shot, puis après, il en veut d'autres. Fait que là, c'est de trouver c'est là que l'échange devient important entre monde qui écoute ça. Là,
mais c'est là qu'on parle de l'attachement émotionnel aussi, parce que justement, quand on trouve une émission, je donne un exemple, moi j'appelle ça un peu le phénomène de la cafétéria à job. T'sais, justement, tu commences à écouter une émission, Là, t'en parles en cafétéria, tes collègues de travail t'écoutent, ils vont peut-être aller à ce moment-là soit se procurer les DVD, ils vont les louer, ils vont l'écouter sur demande, ils vont l'écouter à la télévision. Mais il y a un attachement émotionnel qui se fait avec le podcast. Puis ce qu'on remarque, surtout au Québec, quand on parle à certains collègues de balado-diffuseurs de d'autres émissions, on a toujours l'impression de se partager un peu les mêmes auditeurs. Par contre, c'est sûr et certain qu'on a tous un peu le même sujet détourné un peu. Au Québec, on s'entend, ce qui fait du bruit présentement comme podcast, c'est des podcasts geeks, c'est des podcasts de jeux vidéo. Par contre, il y a Lobe Frontal qui est un podcast de médecine, il y a des podcasts sur la bière, les péteux de brou, des choses comme ça. Il y a beaucoup de trucs qui commencent à être émergents, mais par contre, effectivement, le genre de bouche à oreille, le genre d'attachement émotionnel semble peut-être prendre un peu moins d'impact puis de dimension que les autres. Éric, t'en penses quoi là-dessus, toi?
Moi, l'affaire que c'est que, pour moi, un podcast, c'est du radio sur demande. C'est de même que je le vois à 100%. Puis, dans le fond, l'audience du radio auditive a jamais été énorme. C'est du monde qui s'en allait au travail, c'est du monde qui ont besoin de penser à d'autres choses pendant qu'ils font leurs 30 minutes de treadmill. C'est du monde qui sont en mouvement, qui ont un intérêt pour ça. Il y a du monde qui écoute de la musique, il y a du monde qui écoute des gens parler des opinions pour se faire challenger avec leurs opinions. Puis, fait que c'est pas mal ça que moi je vois là-dessus. Fait que on a encore du terrain à faire tout le monde triper sur la radio sur demande, puis bâtir cette audience-là. Mais c'est une audience qui n'a jamais été absolument énorme non plus. Tu parles de podcast étant toute une autre expérience. On apporte tout un autre sujet quand tu dis ça, ou est-ce que c'est l'événement du podcast, c'est le vidéo, c'est le parler, c'est les gens qui nous regardent quand on stream live, toute l'expérience alentour de ça, de nous, qu'est-ce qu'on fait avec notre vie, les jeux qu'on joue, etc.
Mais ça c'est l'accès à la technologie plus facile, d'après moi, et les médias sociaux, l'évolution qu'il y a là-dedans.
On a une population vieille. On ne se le cachera pas, là. La population au Québec, au Canada, et aux États-Unis aussi, on a parlé de chiffres un peu, mais c'est une audience qui est vieille, c'est les baby boomers, c'est bien du monde. En France, c'est un excellent exemple. En Europe, là, il y a eu un beau gros reset là, dans les années 40-45, ouais. Avec une grosse population qui devrait avoir 80-90, mais qui ne l'est pas là-bas, fait que... c'est plus des jeunes.
Un beau gros reset.
Ouais, ben, tu sais, c'est...
Le beau, je pense, qui était...
Ah, ben, je voulais pas le dire de même, là, mais c'était gros, là, quand même.
Mais il y a une question, je me demande, justement...
Ici, on a bien des vieux, c'est ça, je m'en allais dire, là, puis...
En 2015, bientôt 2016, où, justement, on
Milton, c'était pas beau pantoute, OK, là, il gosse avec celle-là, là.
C'est pas grave. Mais en 2015, bientôt 2016, dans un monde où, justement, tu sais, Éric, tu mentionnais les gens... sont habitués d'écouter la radio en allant au travail, en revenant du travail. Ou les autos ont subi des changements aussi. On parlait de radio Sirius. Les radios ont eu des lecteurs Sirius. On a eu maintenant, mon père s'est acheté une voiture l'an passé. Il y a eu un an gratuit de Sirius dessus qui a découvert ça. Il a pu toucher à ça. On peut connecter nos téléphones sur Bluetooth. On voit l'arrivée d'Internet. On s'entend que le moyen de l'écouter est là.
Mais ça s'en vient, excuse encore de t'interrompre, là, mais ça s'en vient, là, tu vas avoir ton année de Rogers data de sur ton char.
Mais
dans
ça, Pologne, c'est là. Correct, mais même présentement, les gens ayant le téléphone dans les poches...
Hein. Ouais, ça commence
aussi,
déjà.
C'est quoi la définition d'un podcast? On parle souvent de podcast sur iTunes et tout ça, mais ça existe sur YouTube. Tout le monde utiliser YouTube.
Ah, mais le show parlé que tu regardes en YouTube, là, ouais.
Oui. Je fais ça souvent aussi. Il y a beaucoup de monde qui font un show YouTube. Moi, il n'y a pas beaucoup de vidéos, concept vidéo. C'est juste comme base, mais c'est le gars qui parle. J'ai plusieurs personnes que je suis juste pour ça. Puis après ça, ils font un fichier téléchargeable ou streamable sur SoundCloud ou podcast aussi. Mais dans le fond, c'est un podcast. C'est une émission que quelqu'un parle.
C'est pas
quelque chose forcément visuel.
C'est comme... pas forcément, mais avec la facilité à l'accès à la technologie, c'est qu'à Star, c'est facile de mettre une caméra puis aussi bien filmer en plus d'enregistrer. Fait que le monde, ils le font. T'as deux fois plus de views dans un sens, comme un peu ouais. Quand Guillaume parlait de Kind of Funny, quand il a dit, embarqué dans le train qui était cette aventure, mais eux autres sont un train totalement parce qu'ils ont catché comme affaire. Oui, ils ont leur vidéo live, qui coupent en 5 questions, qui sont sur YouTube, puis qui payent, font payer du monde pour l'avoir le vendredi. Mais avec le même show, le même contenu, ben ils ont 4 fois des views YouTube.
Ouais.
Ils ont du cash par un gars qui veut le show avant tout le monde. Puis en plus, ils ont le download avec les pubs puis les commandites dedans.
C'est pas compliqué. Juste avec leur Patreon, puis ça, c'est un fait qui est très américain. Kinda Funny ont, avec leurs deux, ils ont deux Patreon, ils ont 45 000 $ par mois. Deux.
C'est combiné. Fait qu'il n'y a pas vraiment un excuse pour manquer cette émission.
C'est, non, mais c'est...
On a vidéo, on a audio.
C'est ça.
Tu l'as en one tu shot,
c'est
ou
tout accessible, puis c'est facilement accessible, puis je parle pas rien que de pour nous autres, là, aussi, comme tu dis, nous autres, c'est facilement accessible, puis de la façon que tu le veux. Fait
mais ça apporte une question quand même intéressante aussi, c'est justement les auditeurs, parce que là, on parle de Kind of Funny, qu'eux, ils semblent avoir compris comment ça fonctionnait. D'un, ils ont segmenté. Donc, ils ont compris que les gens veulent des trucs niche. Donc, si je veux écouter, je vais écouter parler d'un truc. Mais c'est disponible en vidéo, c'est disponible en audio. Donc, tu sais, il n'y a pas vraiment de raison, comme Alex le mentionnait, de ne pas écouter Kind of Funny, à moins qu'on n'aime pas leur sujet abordé.
Puis aussi, c'est leur, comme tu dis, ils ont segmenté. Fait que pourquoi que je regarderais les deux? Pourquoi? Parce que t'aimes leur personnalité.
Mais il y a ça, mais où je voulais en venir avec ça aussi, c'est que présentement, là, dans le fond, là, à qui ça s'adresse un podcast en 2015?
Tout le monde. 2015?
Anybody.
Anybody. Mais qui est au courant que ça s'adresse à tout le
pas
monde?
Pas assez de bonnes.
je pense que peut-être c'est juste la définition, c'est un peu nébuleux comme mais concept.
Mais ça reste la radio sur demande.
Oui, ça. Mais tu vois,
c'est
ça.
Possible que tu écoutes un podcast sans penser ou savoir que c'est un podcast.
Mais ce que tu viens de dire, Alex, c'est quand même pas fou. Puis comme vous le savez, on a parlé il y a quelques épisodes, tu sais, j'ai été à Alma participer au podcast All Stars. Puis le podcast All Stars, c'était la 3e édition. Puis pour la 3e fois, puis c'est peut-être un peu le côté où le bas blesse, c'est où ce que t'as des représentants des plus gros podcasts ou des podcasts qui roulent le plus au Québec qui se rassemblent ensemble. Puis on parle de c'est quoi être un podcast. Puis ça fait 3 ans de suite qu'ils le font. Puis justement, on est encore en train de dire, oui, mais est-ce que le podcast, c'est un vrai nom? T'sais, c'est ça qui est un peu dommage, parce que on s'arrête sur des détails techniques. Oui, le mot podcast peut porter à confusion. Ma mère, elle sait pas c'est quoi un podcast. Mon frère, sait pas c'est quoi un podcast. Mais radio sur demande, ah, tout le monde comprend.
Mais c'est
donc, il y a un problème, une chaîne de nomenclature. Puis, tu sais, ça fait 3 ans que, justement, des acteurs du milieu s'en parlent, mais sans jamais vraiment arriver à une conclusion non plus.
Mais d'un autre côté, est-ce que tu ne trouves pas que le terme radio sur demande est limitatif pour le médium
conjoint? Oui, je suis d'accord qu'il y a comme...
Je comprends pas comment quelqu'un, une fois que tu lui dis c'est quoi un podcast, peut pas comprendre c'est quoi un podcast.
Oui, une fois que tu y as expliqué.
Ouais, mais je comprends.
Moi, je pense que c'est une forme de distribution. C'est juste un terme pour FM radio. C'est un terme pour satellite.
Moi,
c'est un terme pour ça. Mais le concept, c'est comme quand tu le pognes en forme, podcast, ton média, c'est sur demande, c'est téléchargé.
Moi, je dirais plus une émission sur demande, plus que de la radio sur demande, parce que le concept d'émission, ça peut être visuel, audio, ça peut être...
Mais là, on fait toutes les choses. Tu veux être la vidéo sur demande, tu veux être audio sur demande. Tu veux être les deux, tu veux être le tout.
Mais ça, tu laisses c'est là que, justement, tu laisses au producteur la liberté de faire ce qu'il veut. Comme nous, en ce moment, on s'entend, on est principalement audio, on fait un peu de live quand on enregistre, mais il y en a d'autres qui vont être multiplateformes, il y en a qui sont juste vidéo. Fait que, tu sais,
Pognez-nous sous forme podcast, qui est la version audio. Pognez-nous sur forme streamée live, c'est du stream live vidéo. Pognez-nous sur forme YouTube dans 3 jours en forme vidéo, mais c'est du YouTube.
Le format que tu veux du Geek Collectif.
Podcast, c'est le format audio du Geek Collectif. L'expérience complète, c'est le même que moi je le vois là.
Oui, mais c'était plus par rapport au point parce que pour aller chercher ce qu'Alex disait au niveau de la reconnaissance du public, le mot podcast.
Ouais.
Oui, je suis d'accord que ça représente une émission de radio, une émission auditive, mais ce que je voulais dire, c'est qu'at large, la population ils savent pas c'est quoi. C'est si on dit le mot
d'éducation,
oui, je suis d'accord, mais tu vas aller.
Mais pas un manque d'éducation, les gens sont caves, juste comme ils
doivent
savoir.
Oui, non, je comprends ce que tu dis, mais c'est là que on appelle ça une émission.
Terme,
mais si on appelle ça une émission, les gens ils ont de quoi un référent culturel à laquelle ils peuvent savoir.
Ouais, mais c'est ça, tu bridges le concept.
Mais même encore là.
Ça, je suis d'accord.
Si étant dans les sentiers battus. On est un podcast, on décide que podcast est limitatif et nous empêche d'être connus. On décide de devenir un diffuseur de contenu, dont une émission, mais qu'on n'est pas sur les médias traditionnels. Donc, on n'est pas à la télévision, on n'est pas à la radio. On est un nouveau média, mais comment on se fait connaître à ce moment-là?
Ben, on n'est pas en manque d'outils en 2015 de figurer une manière de se faire connaître. Là.
Honnêtement, pour être un...
Des barbes.
Pour être quelqu'un qui travaille dans l'industrie du web, je peux vous dire que, puis pour en avoir parlé justement en marge du podcast All-Star, le problème, c'est pas un vouloir. Les gens veulent tous se faire connaître. Les gens veulent tous acquérir du nouveau public. Le problème, c'est un, l'effort, puis savoir comment mettre cet effort-là. Parce qu'on s'entend, on l'a dit plus tôt, personne vit de son podcast. Tout le monde a sa job de 35 à 55, 75 heures semaine, peu importe dans quel domaine qu'on travaille ou dans quel type de workaholic qu'on est. C'est que tout le monde a sa job principale. Plusieurs personnes ont une famille ou une vie de couple ou une vie sociale à l'extérieur. Donc, le podcast est souvent un
échappatoire.
Un échappatoire ou un side project au side project, tu sais, un méta side project. Mais dans le sens qu'on a un certain nombre d'heures qu'on doit trouver. L'avantage que nous, on a, exemple, en tant que geek collectif, on est 5, on se complémente très bien. On a chacun ce qu'on apporte de quoi de différent. Donc, moi, je peux, exemple, travailler sur le site web pour pousser des éléments plus de référencement organique ou sur le site web, très technique un peu, mais je peux travailler sur le site web pour essayer d'acquérir du nouveau public. Mais quelqu'un, exemple, un ami à moi que je connais bien, un bon collègue, Benoît Mercier, il y a beaucoup de collaborateurs dans son émission, mais il est un peu tout seul. T'sais, il y a beaucoup de monde qui l'aide, mais il gère son site, il gère ses...
C'est son bébé, man.
C'est ça. Puis lui, j'y en parlais... Quand j'y parlais de référencement, d'optimisation SEO, lui, je regardais ses yeux, puis il était perdu. Puis c'est pas parce qu'il est pas, il connaît pas, il est pas intelligent, il est super brillant, mais c'est pas son domaine. C'est pas son gaga. Lui, j'y ai posé la question, littéralement, c'est est-ce que t'aimerais mieux aller lire un graphic novel ou passer 3 heures à optimiser ton site web en changeant la nomenclature de certains titres puis d'optimiser ton contenu? Il a même pas eu besoin de me répondre, je savais qu'il va aller préférer lire un graphic novel.
Moutou.
Tu sais, c'est normal.
Ben, dis-moi.
Il y a des compagnies, il y a des compagnies legit qui vont payer du gros cash, là. Beaucoup d'argent, là. Moi, juste pour rentrer chez client, chez ma compagnie, puis on n'est pas une compagnie grosse en référencement, c'est minimum 500$ par mois pour justement apparaître plus haut dans Google.
Puis même là, apparaître dans Google, on s'entend parce que.
Tu fais juste apparaître.
Tu fais juste apparaître, mais ça veut pas dire que les gens vont comprendre.
Mais t'as
ça veut
pas Facebook,
dire que les gens vont cliquer. Ça veut pas dire que les gens vont... Parce que je crois, puis moi, de mon expérience d'humble podcasteur, c'est le bouche-à-oreille. C'est faut que les gens parlent en bien. Puis tu sais, on parle d'une expérience client. Ça a l'air niaiseux, mais pour moi, un auditeur du podcast, puis les gars, vous allez probablement rire quand je parle, mais pour moi, quelqu'un qui écoute mon émission est un de mes clients. Je me dois de mettre l'auditeur au centre de mon projet. Puis ça a toujours été le fondement de ma manière de vous présenter le collectif. Puis je me rends compte que souvent, on a tendance à l'oublier un peu quand on va être balado-diffuseur. Même nous, parfois, au collectif, on prend des engagements avec nos auditeurs. On va parler des trucs, on va faire des gestes qui vont être un peu plus étranges à ce moment-là et qui ne seront pas orientés vers l'auditeur. Mais... cette paye-là, tu sais, on parle souvent de la monnaie sociale, les gens qui vont nous donner des 5 étoiles. Quoi de plus gratifiant que quelqu'un qui dit « J'ai écouté ton émission, je me suis claqué le bas de catalogue, je l'ai fait écouter à 3-4 de mes amis. Sur les 3-4, il y en a peut-être un qui va accrocher, qui va faire la même chose, mais... »
Ou peut-être pas pantoute.
C'est difficile parce qu'effectivement, sans avoir accès aux médias de masse, parce qu'on a beau encore taper sur la télé... puis la snobber en disant « Hey, ma belle télé, je vais te débrancher éventuellement, tu vas devenir une grosse machine Internet. »
C'est méchant à faire ça, c'est pas bon faire ça.
La télé reste quand même un des médias les plus accessibles, donc on pourrait mettre n'importe qui à la télé puis lui donner un exposure, il va avoir un take rate. C'est sûr qu'il va avoir des meilleurs audimates pour certaines émissions que d'autres, mais la télé reste quand même un médium pour se faire connaître. Tu sais, quand on avait accueilli Jay Saint-Louis, justement, que lui a fait le saut du web vers la télé... C'est sûr et certain que lui, ça l'a aidé dans sa carrière part, parce que ça l'a propulsé à nouveau.
Même affaire pour Bonin, qui est rendu à la télé.
Ben, Jonka aussi.
Exactement. Donc, on a beau snobber cette télé-là un petit peu, mais en quelque sorte, il y a beaucoup de gens du web qui sont en train de se rediriger vers un médium que tout le monde va dire qui est en décroissance totale.
Il l'est, mais pas au point où ce qu'on va dire, dans 2 semaines, il n'y en aura plus.
Et exactement, des moves comme Musique Plus qui s'adaptent, qui vont faire des émissions comme Contrôle, qui vont faire venir Bonin, qui a eu J-News. Donc, on s'adapte aux besoins du consommateur du moment, puis chapeau à Musique Plus de se réinventer, même VTL, puis certaines chaînes qui font des moves qui sont un petit peu bold puis daring, qui se font rire un peu à ce moment-là, par la télévision généraliste qui vont dire hey, écoute, vous êtes un peu cowboy avec vos traductions et les choses comme ça, mais ils font des moves un peu différents, mais en quelque sorte, c'est un peu ce qu'on fait à chaque fois qu'on se met derrière un micro et qu'on décide d'enregistrer un épisode de notre projet. Là.
C'est sûr. On c'est sûr. Puis la télévision, moi, on le voit. Oh, vas-y.
je vais loin, là, mais moi, je nous vois genre. Sur un ham radio dans les années 70, là, en train de juste parler de n'importe quoi, puis avoir du comme. Je me rappelle de l'expérience ham radio quand j'étais kid. Est-ce que quelqu'un connaît ça ou ham radio, la radio, je pense que c'est la fréquence. C'est une fréquence spécifique qui va très loin.
Mais les AM qu'on appelle en français.
Ben, c'était du AM, oui, mais ils appelaient ça des ham radio, puis t'avais carrément des gars, comme tu sais, quand tu te promenais avec un bon ham radio, tu trouvais des. Des fréquences vraiment comme militaires.
Tu promenais avec ton ham radio?
Non, j'avais. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui en avait un, fait qu'on gossait avec ça. Mais tu tombais sur des talk shows, des dudes dans leur cave.
Ouais.
Avec des amis qui parlaient de quoi. Comme tu pouvais vraiment te promener dans des petites fréquences weird qui allaient vraiment loin. Puis c'était tellement magique faire ça. Puis quand je vois un podcast où ce que on est cinq gars qui parlent de leurs choses qu'ils aiment, je vois juste qu'on est genre c'est le même genre de scène là, mais on est lousse maintenant. Là. On ben, a accès 50 à tout,
ans
là.
Plus tard.
50 ans plus tard, mais on est lousse. Comme imagine, là, tu vas en 1972, puis tu vas parler à un gars qui est dans sa cave avec son ham radio, puis tu dis, by the way, nous autres, dans 2015, ben je vais pouvoir me filmer, me brosser les dents. Puis il va peut-être avoir genre comme 1500 personnes qui vont voir ça dans la prochaine 20 minutes.
Qui vont me quand je fais des push-ups.
J'imagine juste c'est le ça. Méga creepy dude là dans son sous-sol, genre vraiment louche.
Mais là, il fait juste jouer à WoW.
S'il y en a jamais, s'il y a des gens peut-être un peu plus jeunes qui nous écoutent en ce moment et qui se demandent, tu sais, de quoi un peu Ham Radio, Eric parle, là, allez voir le film Wayne's World, là, puis ça vous donne un peu une idée de quoi qu'Eric fait référence à ça.
Mais ça, ouais, c'est plus la télé communautaire.
Non, mais à la base, c'est comme il est dans son sous-sol, tu sais, puis c'est super ghetto. Pis...
Parce que ça, on parle, là, c'est plus un peu comme ma télé, tu sais, c'est dans son
ouais,
sous-sol à Aurora et
Illinois.
Mais le Ham Radio, dans le fond, là, un bon exemple de ça, allez regarder le film Pirate Radio. Radio Rebelle, qui était dans les années, c'était quoi, c'était 60-70, où il n'y avait pas le droit de faire passer plus que 2 heures de rock en Angleterre à la radio. Donc, eux, il y avait des bateaux qui étaient à la limite de la frontière à ce moment-là, des eaux internationales, puis ils se permettaient de pouvoir diffuser via les ondes AM de la radio rock'n'roll, justement, puis c'est là que ça, puis c'est un fait
pour
vécu.
Le record,
ça,
là, même passant, eux, là. Ils vendaient de la publicité.
Exactement.
Pour pouvoir faire financer cette opération-là. Je sais pas si on en parle ou on va aller dans cette direction-là, mais la publicité, là, je trouve qu'il y a des gens qui sont un peu contre le concept. Je sais pas si on va embarquer dans une discussion ben, advertising.
Un des derniers aspects qu'on va parler, Eric, puis ça va être le dernier aspect de la soirée pour le bien du temps, par contre, mais tu vas être heureux, ça va toucher à ça, c'est l'impact monétaire d'un podcast, dans le fond, parce que souvent, on va entendre plusieurs podcasts rêver de faire leur vie de ça. Donc, c'est sûr et certain, on rêve de gagner notre vie un podcast. Il y a des coûts, il y a des impacts monétaires.
Je pense que c'est gagner notre vie avec une passion en général.
N'importe qui va dire oui. Là,
fait que c'est ça.
Tel un kid qui jouait au hockey à 7 ans, tu t'imagines jouer pour le Canadien, ben tu t'imagines gagner ta vie comme ça.
N'importe quoi que t'aimes.
Donc, nous, la seule différence, c'est qu'on est rendu à 30 ans montant, puis on a des micros, puis on pense à... Mais qui n'aimerait pas gagner sa vie de sa passion? Mais on doit être réaliste, par contre. C'est pas avec ça qu'on gagne.
J'ai une parenthèse à ajouter là-dessus. J'ai mon beau-frère, par exemple. C'est un drummer malade. Il drumme. Ça, c'est. Il aime diffuser ça comme expérience. Tu vas l'écouter, là, tu vas t'asseoir, là, il va faire une run de drum, là, puis c'est malade. Puis il est dans une band, puis il pratique dans un studio. Puis j'ai d'autres amis qui sont dans des bands, puis ils pratiquent dans un studio. Les autres, ils se rencontrent 2-3 fois par semaine. Ils travaillent des albums, ils jouent de la musique ensemble, prennent une coupe de beer ensemble. Un podcast, c'est un petit peu le même niveau de ça, mais je joue de la bass, mais je poche. Tu sais, comme on peut, tu vois ça comme ça. Ta passion, c'est de parler à des gens, parler de tes opinions, partager tes opinions. Mais ça, c'est une passion. Puis il faut qu'on le traite comme ça. Quand on le fait, mais on s'amuse. Puis si ça pogne, ça pogne. Si ça pogne pas, ça pogne pas. Mais le but, c'est de continuer pis d'être honnête avec toi pis de parler comme tu veux. Puis c'est ça que mon beau-frère fait quand il fait du drum. D'autres de mes chums qui font quand ils se rencontrent avec leur chum pour faire des weird recordings de musique expérimentale. Ben c'est ça qu'ils font aussi. Mais à la base, ils sont en bonne compagnie. Puis ils font qu'est-ce qui les fait triper.
Joe, je pense que tu avais quelque chose que tu voulais ajouter sur le...
Ben, je pensais au band. C'est Metallica, son band, c'est ça?
Qui... Oui, c'est Metallica.
Okay. Non, mais c'est le fait que... pour... En tout cas, il y a bien du monde. Aussitôt que tu vas faire une publicité ou quoi que ce soit, il y en a qui vont être contents pour toi. Il y en a qui vont être comme, hey, moi, j'aime ça. C'est une façon de vous encourager ou des affaires de même. Il y en a d'autres tout de suite, hostie de gang de vendus. Mais
ça, c'est,
ça
c'est
je pense, c'est partout. Il y en a aux États-Unis aussi, je suis sûr qu'ils se font. Il y en a que je voyais des Joe Rogan qui disaient, ben, il y en a qui chialent, skippez la pub, là, tu sais.
Vous avez, la même personne qui va dire que Pixel, pouvoir... c'est pas, je vais pas le voir.
Tu sais, en tout cas, il y a du monde qui va Belgium chialer White pour ça tout le temps. Mais l'affaire aussi, c'est côté, des commanditaires, je pense, ou des personnes qui des publicitaires, ils ont une réticence à mettre de l'argent là-dedans parce que ce soit de l'argent ou de la commandite quelconque, parce qu'ils ne voient pas nécessairement les chiffres, ils ne voient pas nécessairement...
Le retour sur investissement est difficile. Le retour
sur investissement, que même aux États-Unis, il est quand même pas nécessairement hyper gros, genre, puis ils ont des grosses commandites, là. Ils ont tous les podcasts j'écoute en anglais, c'est un site, c'est des nerd blocks, des comic blocks, des repas gratis.
C'est un peu, tu disais, ils veulent pas faire un retour sur l'investissement à cause qu'ils savent pas les chiffres.
Ils veulent en faire un, pas à cause qu'ils savent pas les chiffres. Les chiffres sont pas assez gros parce qu'ils calculent en pourcentage en se disant, s'il y a 1% du monde, mais si t'as même 1% des 500 ou même 5000 personnes qui download l'épisode, si t'en as 1%, t'en as 50 qui vont peut-être utiliser le coupon code ou quelque chose. C'est
pas mais beaucoup. Souvent, le problème, c'est que la plupart des producteurs sont pas capables d'aller chercher ces chiffres-là. Ça revient un peu à ce que je disais tantôt au niveau de, tu sais, du référencement et l'optimisation. Les gens sont capables de maîtriser l'outil technologique pour justement aller pousser leur médias en ligne, mais... Ça va s'arrêter là. Puis tu sais, vu que c'est un projet de temps partiel, ben ils vont peut-être pas aller pousser justement les analytiques de plus. Nous, moi puis André, des fois on a des discussions puis on va essayer de se comparer puis d'aller pousser un peu l'analyse un peu plus loin quand on peut se le permettre, mais c'est encore là. Puis je suis pas mal sûr que si quelqu'un a le temps puis la capacité de monter un dossier marketing par rapport à son podcast avec des statistiques puis il les présente d'une certaine façon, il sera capable d'aller chercher des
En fait, ça dépend parce que je suis d'accord, mais je suis pas d'accord en même temps parce que au niveau publicitaire, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait au collectif au début. On avait approché, quand on avait fait, puis je vais être 100% transparent avec les auditeurs, on avait fait un concours avec Jack of All Trades au départ. Mm-hmm. On faisait tirer 100$ de magasinage. On avait un coupon à ce moment-là. Puis on avait quand même des bons visionnements puis des bonnes écoutes. Malheureusement, on n'est pas allé chercher les quotas minimum. Donc, cette promotion-là nous a coûté de notre poche 50$. On a négocié avec Jack of All Trades. Ça nous a coûté 50$. Puis on a donné 100$ aux auditeurs. On s'est engagé avec nos fans. On l'a respecté. Mais... Il y a deux choses que je veux dire par rapport à ça. C'est que premièrement, le modèle publicitaire dans le podcast est assez difficile, c'est assez archaïque pour un médium assez actuel. Voulant dire, on parle d'une émission où les gens peuvent télécharger gratuitement sur leur téléphone, leur laptop, l'écouter sur YouTube, Facebook, etc., etc. Puis on demande aux gens d'aller utiliser le code collectif48 sur un site web quand on fait un achat. C'est au niveau de l'expérience client, on est en train d'utiliser la même technique que le gars avec son cop Tim Horton à côté de l'entrée de Berry-UQAM qui disait, hey, t'as un peu de change, faut que je prenne le métro. On est en train de quêter un peu à nos auditeurs de payer notre passion. Puis
mais moi, c'est là où il faut que ça aille.
Mais en fait,
je vais ajouter après, là, mais moi je pense que c'est là où il faut qu'on aille.
Moi je pense que c'est différent parce que je suis pas d'accord avec ça, où il faut aller le quêter. Je suis d'accord que les gens peuvent nous aider à financer. On parle de Kind of Funny qui vont utiliser des Patreon, des choses comme ça. Mais s'il y a quelque chose que j'ai appris dans nos 3 ans de collectif, c'est que... Puis ça, c'est quelque chose que je peux transposer dans ma vie. Puis ce projet-là, le collectif, m'a apporté quelque chose dans ma vie personnelle. C'est que autant que je vais traiter le collectif au sérieux, autant que je vais le traiter comme une job... Ça a l'air con, là. C'est une passion, c'est un projet. Mais autant que je vais lui accorder de l'importance comme une job, autant que ça va être important et je vais prendre des actions en conséquence et les gens vont comprendre que je traite mon projet de cette façon-là. Mmh. Les gens qui me connaissent dans mon entourage, puis ils voient le temps qu'on passe sur le collectif, ils voient l'intérêt qu'on va mettre dedans, ils vont voir l'effort qu'on met. sais, puis à chaque fois qu'on en parle, nous autres, dans nos meetings, tu sais, on aurait la chance d'avoir un son cheap, de s'en foutre, de pas avoir de cohésion, de pas faire de plan de match, de pas faire de meeting, de planif, rien. Parler dans nos micros, d'attitude, puis après ça, de dire au monde, hey, écoute, on a réussi à vendre une pub de 30 secondes sur un fournisseur de brosses à dents électriques. S'il vous plaît, allez acheter des brosses à dents électriques. Ça nous permet de payer notre hosting. Je pense que c'est pas la direction que le podcasting devrait prendre.
Tu magasines ça?
Non, même pas. J'ai pris une affaire que, justement, j'achèterais jamais puis qui ne fitterait pas pantoute avec le collectif.
J'espère
mais, que mais quand je vois des émissions comme... Tu sais, il y a Kind of Funny, même Rétro Nouveau qui ont été sur Patreon puis qui vont offrir de travailler leur contenu, puis c'est con à dire, mais je veux les féliciter quand même dans leur projet, parce que Rétro Nouveau ont un souci du détail, puis ils veulent se dépasser dans leur art, puis c'est important pour nous aussi au collectif de justement, tu sais, la qualité sonore qu'on va donner, la qualité du contenu. Tu sais, avant d'aller quêter de l'argent, ce que j'aime du modèle de Patreon, puis ce que j'aime des modèles de la finance participative, c'est que, ben, je fais pas juste te demander d'acheter une brosse à dents électrique. Puis que si t'en achètes une par pur et simple lock, parce que 50% de mon auditoire est prédisposé à s'acheter une brosse à dents électrique, ben, finance mon émission. Tu sais, regarde, je vais te donner le goût de financer mon émission. Sais-tu pourquoi? Parce que t'aimes ça, t'aimes le contenu que je fais, je vais t'en offrir plus pour ton argent, puis je vais te demander d'être partenaire avec moi, parce que faire un podcast, là, on s'entend, là, on gagnera pas notre vie avec ça. Puis si on la gagne, ben crème, je vais être le premier à capoter puis à virer fou. Puis je vous fais une vidéo où je me roule tout nu dans le Nutella. Regarde. Je l'ai dit là l'épisode 77.
Je pourrais pas être là. Nutella. Nutella.
Ah, excuse, j'ai des pinottes. Mais non, mais les confitures. Mais voulant dire, c'est que présentement, ce que ça coûte faire le podcast, là, regarde, oui, on a acheté de l'équipement, mais ça nous coûte un hosting par année puis un hosting pour nos fichiers audio par mois. Puis c'est la seule chose. Puis la journée que je peux financer mon projet ou que juste ça, ça coûte rien, selon moi, c'est un accomplissement, parce que il y a des gens qui vont dire, écoute, pour moi, chaque épisode du collectif vaut cette pièce-là que je vous donne par mois.
Absolument.
Puis si tu me demandes de t'en donner deux en me disant, ben tu vas acheter une caméra ou tu vas augmenter la qualité sonore, tu vas ramener tel segment... Ben, crime, je vais t'en donner la deuxième pièce parce que je te fais confiance puis je sais que ça va être de la qualité. Puis je trouve que c'est con à dire, mais c'est quelque chose que j'ai pris de mon bagage professionnel puis que j'ai amené puis que j'essaie de vous partager à chaque fois qu'on fait un meeting d'équipe, parce que ce projet-là, le collectif, le logo qu'on a, l'image de marque qu'on a, la personnalité qu'on a, le contenu qu'on a, le plus qu'on va le traiter avec du sérieux, puis je vous dis pas de nous dire dans notre tête, hey, faut qu'on fasse un million avec ça, mais juste de... Le monde qui nous écoute, on leur doit au moins de prendre ça au sérieux, puis on leur doit au moins de donner quelque chose de qualité. Ben, c'est ça qui va faire qu'on va avoir des gens qui vont embarquer avec nous, parce que, tu sais, les pubs dans le podcast, tu sais, j'écoute Pointless. Kevin Pereira, le gars, il anime à G4, il fait des jobs, il fait un paquet d'affaires, puis le kit, puis il me demande d'acheter un case de vapoteuse en disant Pointless 48 comme code, puis crème. Ça me fait débander un peu de mon expérience de podcast. Oui, comme Joe Rogan l'a dit, skip là l'annonce. Mais j'embarque moins là-dedans, parce que je trouve que ça me sort de mon expérience. Versus, ça me dérange pas de financer des projets comme Radio Talbot, Rétro Nouveau, Kind of Funny ou quelque chose comme ça. Ou eux, versus me forcer à me dire, je vais te mettre une pub dans les dents. Regarde, nous, on est fiers de ce qu'on fait. On fait du contenu comme ça. On vous le propose. Embarquez avec nous si ça vous tente. Si ça vous tente pas, ben regarde, on va le faire pareil par passion en ce moment-là. T'sais.
Mais si on parle, là, t'as parlé un peu justement de la présentation là, des vapoteuses puis des brossadins électriques. Là, on pourrait, souvent, ça tombe dans le format du pre-roll. Si on prend l'exemple justement de Kind of Funny, eux, ils ont des commanditaires qui vont présenter l'émission. Exemple, Nerdblock va commanditer une émission par mois, puis tu sais, t'as le code si tu veux l'utiliser. Si tu veux pas l'utiliser, tu l'utilises pas. Tu sais, this show is presented by Nerdblock, blablabla, avec le petit speech. Mais tu sais, je me dis, moi, si une équipe de balles, une équipe de softball, de ligue de bière, ou une équipe de hockey de garage est capable de se faire commanditer, je vois pas pourquoi un podcast, peu importe son sujet, serait pas capable de se faire commanditer. La responsabilité, encore là, pour moi, revient au producteur, comme toi qui tu disais tantôt, qui doit justement être judicieux dans ses choix pour justement offrir de quoi qui est en lien avec son contenu et son auditoire. Si quelqu'un a un podcast de barbecue, lui, dis-moi là, je suis le Ricardo du barbecue, là, je fais des grillades, du smoking, puis tout, là. Puis Krim Weber ou Canadian Tire ou je sais pas qui veut dire, ben regarde, je vais te commanditer, peu importe, là, je vais te donner un sac de charcoal, là, m'en fous quoi, là, n'importe quelle affaire. Mais tu sais, ça fit, il serait un peu, il pourrait, je veux dire, il peut l'accepter, ça fit avec, c'est dans le même, si mettons NCIX t'appelle demain matin puis il dit, hey André, on aime bien ton podcast, tu parles de sujets geek en général, on serait intéressé à te commanditer. T'es pas obligé de dire oui, ouais, mais tu peux travailler la méthode avec eux.
Mais comment je peux te dire ça? Ce que je trouve plate, c'est que prenez la radio des années 50, des années 40, des années 30. T'sais, cette émission vous est présentée par Tide. Tide
ça,
et le savon.
J'aime
de...
ça, moi.
T'sais, ça,
moi, c'est weird, mais j'aime ça. Là. C'est quelque chose que j'aime, ça.
On va faire un parallèle avec ça. L'émission était présentée par Tide, c'était correct. Mais maintenant, ce qu'on fait, par contre, c'est qu'on passe la facture à l'auditeur. Voulant c'est dire, hey, l'émission est présentée par Tide. On va utiliser le code puis achète du Tide sur... Moi, puis je parle uniquement pour nous. Puis
en passant, l'annonce de Tide là, était vue par 15 millions de personnes.
Mais c'est
de
justement, c'est que présentement, ouais, ce qui arrive, c'est que les gens vont se dire, ben, ok, ben, t'as environ X nombre de downloads par semaine. Moi, je vais mesurer combien de fois le coupon est utilisé. Puis
mais c'est moi, pas, j'ai pas le coupon. C'est ça l'affaire que je veux dire. C'est on est un nouveau médium. On a juste un contrôle sur la façon qu'on délivre le contenu. Puis moi, moi, l'exemple le plus frappant que j'ai par rapport, c'est les streamers. Les Miss Harvey, et autres, là, qu'on voit, qui sont sur Twitch à temps plein, souvent vont avoir des commandites. Tu sais, puis ils vont mettre leur lot. Mais il n'y a pas de coupon.
C'est ça. Quand tu passes pas la facture à l'auditeur, tout est correct. Parce que moi, c'est ce que je trouve qui est une des tendances qui est lourde dans le podcasting. C'est qu'on passe le bill à l'auditeur. L'auditeur ne devrait pas avoir à payer parce que nous, on a décidé de se lancer dans le podcasting. L'auditeur nous remercie à chaque fois en écoutant. Puis, j'ai rien contre le fait d'annoncer au début « Hey, c'est Tide ou NCIX qui sponsor cet épisode du collectif. » Mais quand tu commences à avoir un drive to action, puis là, tu mentionnes le coupon, tu mentionnes « Allez acheter en nous encourageant le podcast. Vous faites vivre le podcast si vous achetez de la vapoteuse à telle place avec tel code. » Je trouve que ça, c'est passer la facture à l'auditeur. Mais, je trouve ça cheap dans notre médium.
Mais il faut comme passer la facture comme ça, je trouve pas ça correct. Mais démocratiser le dollar du consommateur à supporter les projets qu'il aime, c'est une des meilleures affaires au monde. Un exemple. Peut-être pas tout le monde le sait, mais j'en ai sûrement déjà parlé, mais j'ai fait la radio universitaire à Ottawa dans les années 90, puis j'ai vu deux funding drives dans le sens de NPR, etc. Si tu écoutes NPR, t'écoutes n'importe quoi qui est public aux États-Unis, ils n'ont pas de Radio-Canada, là, c'est ça. Ils n'ont pas de Radio-Canada, mais à chaque année, ils ont leur fund drive où il y a tout le monde qui téléphone en train de leur prendre l'argent, puis les gens supportent le contenu qu'eux, ils ont. Puis c'est pour ça que ça existe, en fait. C'est les gens, comme tu fais du bon contenu, les gens vont te garder les lumières ouvertes. Le but de ça, c'est que tout le monde peut avoir du contenu. Le jour que ça, c'est pas légal, c'est le jour qu'on est vraiment dans
mal. Mais tu vois, une méthode
moment,
comme
ça l'est.
Mais une méthode c'est comme bon. Ça est bonne parce qu'un Patreon le Téléthon de PBS une
c'est
fois
ça,
par année.
C'est, exact.
C'est que ça c'est permet que aux gens sans puis ça c'est pas passer la facture puis c'est ce que je veux qu'on ressente vraiment de mon argumentation, c'est que je veux pas passer la facture.
Hey, quand je faisais les funding drive là, la facture là, quelqu'un appelait pendant mon show. Je prenais le nom de la personne, le numéro de téléphone, carte de crédit, le montant du don, tout écrit à la main sur une petite facture à trois papiers carbone. Puis maintenant, quand j'écoute, par exemple, quand NPR sont en funding drive, là, c'est legit text loot to this number, $10 automatically, thanks for the support. Comme on est rendu, c'est tellement facile, là. T'as juste besoin d'avoir
des
bons contenus.
Mais c'est parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, tu sais, comme argument de fermeture, parce qu'on n'a plus de temps, on va être obligé de closer là-dessus, mais à la limite, là, le podcast, là, c'est nous qui a décidé de le faire. C'est nous qui a décidé de se rejoindre en gang de chums, de s'asseoir autour de des micros avec de la bière. Deux fois, c'est pas de la bière, des fois, c'est de l'eau, des fois, c'est d'autres choses, mais on a décidé de s'asseoir toute la gang autour d'une table, discuter d'un sujet qui nous passionne, puis de partager cette passion-là avec les gens. Puis je pense que, tu sais, où je veux en venir avec mon argument de fermeture, c'est que souvent, on va avoir des débats de podcast qui vont parler de financier. Surtout au Québec, on va parler du financier. On va parler, ça coûte combien? Combien d'argent je peux faire?
Temps,
c'est normal, mais ce que j'aimerais voir au global de la scène du podcast. Puis ce que j'aimerais voir, puis garde, écoute, à nous de démontrer, puis walk the talk, comme qu'ils disent, mais qu'on parle plus de manière de faire découvrir le podcasting, qu'on parle plus, tu sais, puis des initiatives comme Rétro Nouveau sur Patreon, là, je trouve ça, c'est un bon message
envoyé. Patreon en général.
Patreon en général est un bon message envoyé. Qu'on ait des débats, comme qu'on a eu ce soir, à parler du podcasting, de pourquoi ça pogne pas, pourquoi ça pogne, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça pogne plus, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent aussi pour que les auditeurs aiment ça, mais d'aller chercher de l'engagement, mais de lâcher cet aspect financier-là souvent, parce que je suis content qu'on ait eu ces questions-là ensemble ce soir puis qu'on ait abordé l'aspect financier. Merci, Eric, d'avoir apporté sur la table. C'est normal qu'on parle de cash. C'est normal parce que, crème, que tu sois une famille, un père monoparental avec un enfant qui va aller jouer au hockey, tu vas parler de cash, c'est une passion. Ton kid veut jouer au hockey, mais ça coûte des sous pour jouer au hockey.
Tu veux faire un investissement de 2,6 millions cette fin de semaine sur le stock américain.
Tu sais, t'as plein de gens qui peuvent sortir de l'argent de leur poche, puis il y a plein de raisons de le faire, mais ce que je trouve cool, c'est qu'on est une business de passionnés à la base. On est des gens qui veulent partager nos passions avec les gens. Puis c'est cool de savoir qu'on peut en parler sans nécessairement tomber dans le « ben what's in it for me » puis « c'est quoi ma paye que je vais faire à la fin du mois ». Donc, je trouve qu'on a eu un débat intéressant sur le podcasting ce soir. Alex, tu sembles avoir un petit mot que tu voulais rajouter, tout est correct?
Non, correct,
non, c'est juste, excuse-moi, tu twitchais dans le coin. Donc, mais en gros...
Il y avait des mouches.
En
mes yeux.
Donc, on va vous inviter par contre, c'est sûr qu'on a touché des cordes sensibles ce soir pour nos auditeurs. C'est sûr qu'on a parlé de sujets qui ont peut-être été controversés. Ça va susciter de l'interaction. On est willing de parler avec vous. On va se prêter au jeu. C'est pas unidirectionnel. Ce qui est cool, c'est que comme chaque épisode qu'on va faire avec vous, c'est bidirectionnel. Vous avez des interactions, des sujets que vous voulez parler, des trucs qu'on aurait dû aborder à ce moment-là. Ben, on a une page Facebook, on a le podcast à commercialgeekcollectif.com, puis on a Twitter pour pouvoir interagir avec nous.
Le site web.
Envoyez tous vos trucs. Toutes les coordonnées sont sur le site web aussi également. Il va y avoir le site web avec certains trucs où vous allez pouvoir laisser des commentaires. Mais on veut avoir votre opinion, vos visions sur le sujet. On veut entendre parler de vous. Et plus précisément, les gens qui voudraient interagir avec certains d'entre vous, précisément, messieurs. Donc, Alex, les gens qui voudraient te parler.
Sur Facebook, alex.greco, 2A, et un peu plus, superjoker86 sur PSN.
Merci, Alex. Eric.
Eric Hébert sur Facebook, naturellement. Puis Priced hashtag 1387 sur Battle.net, la plateforme de jeu la plus épique sur la planète.
Merci, Eric. Milter.
Zombie Milter sur Twitter. Rejoignez-moi pas sur Facebook, je suis banni.
Ben,
peut-être
plus là, tu n'es pas banni. Ou peut-être tu l'es encore.
Je vais sûrement l'être encore, mais au moment de cet enregistrement, je suis banni.
Merci, Milter.
Voulez-vous savoir pourquoi?
Oui.
OK, garde-toi, okay. Vas-y, pourquoi.
J'ai posté le vidéo d'un homme noir trop gelé dans le métro de New York. Partagé un vidéo d'un homme noir trop gelé dans le métro qui essayait de s'arracher le pénis. Tu sais, juste
surprise,
pour ça,
surprise.
Facebook, comment? C'était même pas mon vidéo.
Tu savais que ça allait arriver.
C'était juste mon share, pas mon vidéo.
Hein, merci pour cette nouvelle troublante, Milter. Guillaume, les gens qui voudraient interagir avec toi?
Peuvent aller au guillaumehamel.com. Et il y a un petit onglet à propos. Toutes mes affaires sont là.
Cool.
Que ce soit des réseaux sociaux ou des jeux vidéo.
Ah, faudrait que je la check ma page comme ça. Je n'avais ouvert une comme 8 ans passés. Ça marche encore?
Toujours.
Ouais, bon.
Pour ma part, André Paquette sur Facebook. Sinon, Uzumaki QC sur Twitter, Instagram, PSN, Xbox Live, peu importe. Ça me ferait un plaisir de pouvoir dialoguer avec vous. Geek Collectif, le podcast, un podcast, ça fait environ 3 ans qu'on... Non, en fait, pas environ, c'est un peu plus que 3 ans. Ça fait 3 ans que nous sommes en onde, 67 épisodes. Le tout est disponible via iTunes et sur legeekcollectif.com. Vous avez aimé le contenu ce soir, on vous demande de le partager, comme vous avez entendu, le podcasting, ben c'est de bouche à oreille ou d'écran à yeux. Donc, on vous demande de partager notre contenu, faire écouter des épisodes que vous croyez qui pourraient être connexes à des gens de votre entourage. Donc, vous avez un passionné de bière, il y a un épisode de bière, on en fait écouter. Et vous pouvez nous laisser également une critique sur iTunes qui va nous aider à avoir un peu plus de référencement. Donc, geekcollectif.com, Geek Collectif, le podcast sur iTunes. On se laisse sur ces belles paroles et on se revoit dans 2 semaines. Merci beaucoup à tous et bonne soirée.